Salut, c'est Gilbert Montagnier. C'est par où, Canal B?
Les sons des autres sur Canal B.
African Anarchist Radio. All you free Negroes say yeah. Yeah,
yeah. Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Bonjour, vous êtes bien sur Canal B et sur Fréquence Mutine. Nous sommes en direct depuis le Festival des Arts de la Rue de Morlaix. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi? Bah parce que c'est comme ça, parce qu'il se passe
rien. Parce que c'est bien.
Il se passe rien à la capitale de Bretagne. Alors du coup, on déplace nos petits studios comme tous les étés. Je suis avec Cathy de Fréquence Mutine, bonjour.
Bonjour Paco.
Aujourd'hui encore une fois, on va essayer de vous faire part de ce qu'on a vu, notamment en termes de spectacle des Arts de la Rue. Moi j'ai vu plein de trucs, j'ai vu cinq compagnies. Je peux dire, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol des Arts de la Rue.
On vous parlera aussi de ce qu'il y a à voir et à ne pas rater. Parce qu'il reste encore une journée, Paco. Il y a encore demain toute la journée. Ce soir, ça va être festivité sur festivité aussi.
Et alors,
un programme assez chargé.
On est ensemble. Donc aujourd'hui, de midi à 14h, comme tous les jours, sauf que demain, on sera présent de 11h à 13h pour des raisons qu'on vous expliquera demain. Midi 14h sur Canal B, sur Fréquence Mutine, pour faire quoi? Pour vous
parler. Au programme, on a une spéciale compagnie bretonne. On retrouvera dans l'ordre ou dans le désordre une de plus, Pied en Sol, Sergent Pépère et Tango Sumo. Et puis ensuite, à partir de 13h, on retrouvera un spectacle au poil avec Bébert et Lolo et puis de la danse avec Claire Ducreux.
À noter qu'on aura un petit live notamment de Sergent Pépère aux environs de 12h30. C'était un live, c'est-à-dire qu'ils vont venir jouer dans le studio qui, je vous le rappelle, est installé
à
Morlaix, à l'école
Ben.
Voilà.
T'as du mal avec le breton, toi. Hein.
Attends, on peut pas se rappeler d'un nom pareil, c'est pas possible. Je sais pas qui c'est qui a nommé cette école, Pouet-Bouen. Ça veut dire je sais pas quoi, mais c'est là qu'on voit qu'on est en Bretagne, hein, au fin fond de la Bretagne,
et non pas
à Morlaix.
Hein.
Et on le voit aussi d'ailleurs au climat, à l'humidité de l'air et aux quelques averses qu'on se prend. Et je trouve que les compagnies sont courageuses. Certaines se sont pris des saucées graves. On reparlera donc de ce qu'on a vu hier. Il y aura plein de choses à raconter. Il y aura aussi des petits sujets réalisés par notre Clémence, bénévole au petit reportage. Et quoi, si on va écouter maintenant pour commencer cette émission la fanfare Burek que j'ai enregistrée hier. C'était sur la place
Saint-Mathieu,
hein, bravo, heureusement que tu suis.
Fanfare Burek qu'on retrouvera normalement sur les Jeudis du Port, je crois, un truc comme ça.
La fanfare Burek, tu nous en dis un petit mot quand même. C'est un mélange entre des gens de Kotchani, si j'ai bien compris.
Voilà, tout à fait. Et puis des Brestois, hein, puisque dans la bande, on retrouve un ancien des Electric Bazar. Hein.
Et voilà, et ils ont fait la fête hier soir, ils ont joué.
Jusqu'à très tard.
Jusqu'à environ 2h du matin, ici. Ils continuaient de jouer. Quand je dis ici, c'est-à-dire qu'il y a un petit lieu convivial, un bar où on peut se rencontrer entre artistes. On boit des coups, on fume des pétards, on s'échange des informations, etc. Bah, tout est normal, quoi, ici à Morlaix.
Et la convivialité,
Burek, les Gypsy Burek, ils ont joué vraiment depuis la fin de leur concert où ils venaient de jouer une heure et demie. Ils sont arrivés ici au bar du festival et ils ont joué encore pendant 2 ou 3 heures et c'était vraiment magique. On écoute un extrait de leur concert d'hier soir, place Saint-Mathieu.
Thank you.
Bach Orchestra en live depuis le phare hier soir, donc sur la place Saint-Mathieu. Gypsy Burek Orchestra, ça déménage.
Voilà, ça on voit bien. Puis c'est des, bah c'est des gens. En fait, ils n'arrêtent jamais de jouer. Alors après, on s'étonne bah, pourquoi ils savent jouer de la musique et ils jouent très très bien de leur instrument. Mais c'est normal, ils n'arrêtent jamais de jouer. On est des gros feignants à côté d'eux. Je parle des musiciens du coin, quoi, ça dépend desquels. On va accueillir nos premiers invités aujourd'hui. Une de seule ou
une de plus.
Voilà, c'est des compagnies qui ont, bah, qui font partie de, dans cette première heure, en tout cas des gens qu'on va inviter. Spéciale compagnie bretonne. Alors une de plus, vous êtes de Redon.
Voilà, mais nous on est les Tango Sumo en fait.
Non.
Non, non, une de plus, alors...
C'est Plouguerneau.
Les tangos de
non,
plus.
Non, 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 on n'est plus à Plouguerneau, on est à Lampol-Plouarzel.
Oh, c'est pas très loin.
Ouais. Non, en ce moment, non, on a déménagé de 40 km, mais c'est parce qu'il y a un spot de surf là-bas.
À Lampol.
Ouais.
Moi, on m'avait dit qu'il y avait une plage de nudistes, mais pas un spot de surf.
Aussi, ouais, ouais. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas pour faire une blague salace, hein, mais pour aller à la pêche à la moule, c'est énorme. Elles sont énormes, les moules, sur cette plage-là.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Eric, donc, de Une de Plus, est accompagné de Guillaume. Il y a aussi Véro et Jean-Sébastien, qui donc, sont quatre personnes qu'on voit danser, jouer la comédie et faire des marionnettes, on peut dire ça comme ça, dans leur spectacle qui a lieu le soir à 23h, juste en face du théâtre.
À la place du théâtre.
23h03, hein, bien sûr. Ouais, ouais, pas chipoter pour 3 minutes. Juste en face le théâtre. Et alors, il y a un très bon son. Il y a du matos hein, au niveau. Parce que finalement, c'est une petite forme, mais vous avez un gros son très lourd, très, avec des choix musicaux assez particuliers, j'ai envie de dire. Un peu ambiante, un peu électro. Ça groove un peu
oui,
à certains moments.
En construisant le spectacle, la musique, elle s'est construite en même temps que l'histoire, la narration. Ouais. Vraiment. Et l'idée, c'est que le son enveloppe le spectacle, quoi. Et comme il n'y a pas de texte, on raconte une histoire un peu complexe, mais sans texte. Et donc, c'est pour ça que la musique, elle englobe vraiment...
C'est-à-dire que la disposition
voilà, de la scène... C'est divisé en quatre, c'est ça, avec une partie centrale.
C'est ça, nous, on joue au centre. Donc, on isole vraiment notre univers au milieu du public. On a en plus un éclairage qui fait qu'on est vraiment très isolé du reste du monde. Quoi.
Alors c'est l'histoire de trois frères et une sœur,
voilà,
une histoire de famille.
Exactement.
Il se passe quoi dans cette famille?
Oh, des incestes, des trucs comme ça, des
c'est pas
des
toi
bagarres,
qui ai posé la question, Paco.
Ah bon, pardon.
En fait, c'est toujours difficile de parler d'une histoire visuelle. Donc effectivement, nous on a écrit une histoire, mais... Ce serait compliqué de la raconter à la radio et puis pas forcément intéressant. Mais effectivement, on a essayé de récolter en fait des témoignages de gens et on a essayé de raconter leurs histoires, de les mettre toutes ensemble et d'en faire une histoire de simplement trois frères et une sœur. Mais c'est plein d'histoires collectées. Donc ça reste assez complexe.
Pour revenir à la musique, c'est vous qui l'avez produite cette musique ou vous l'avez cherchée? Comment ça se passe?
C'est un ami qui vit en Australie d'ailleurs, Daniel Monge, qui nous a fait la musique du premier spectacle. C'est un talentueux compositeur qui a seulement 24 ans. Voilà, c'est un mec à tuer quoi. C'est parfait. En plus, il est beau, sympa.
Il est jeune, beau, intelligent, talentueux.
Ouais, c'est énorme. Heureusement qu'il est en Australie. Et du coup, sur le premier spectacle, comme ça a bien fonctionné, on lui a dit, sur ce deuxième spectacle, on va pas parler encore. Donc, la musique a un rôle très important pour donner des informations dramatiques aux gens.
Ouais.
Sur le premier spectacle, on avait une ligne artistique pour la musique. C'était quelque chose d'asiatique avec des sons des films d'animation japonais. Et ici, je sais qu'on en a discuté, on était vraiment dans des musiques tripantes avec par exemple Virgin Suicide, la musique de Virgin Suicide. Et des choses comme ça. Mais aussi avoir un univers d'enfant. Donc avoir quelque chose de très fort au niveau des basses.
Genre des toits piano aussi à certains moments.
Exactement,
des choses comme ça.
Ouais.
Des instruments enfantins qui donnent des sons assez particuliers. Alors c'est vrai que encore une fois je le redis, la disposition est importante, la disposition des enceintes. Hein, elles sont dirigées vers vous et non pas vers le public. Donc on s'en prend quand même du son puisque comme il y a quatre enceintes, forcément on est à un endroit où on va en recevoir. Et le son est aussi particulièrement travaillé. J'ai envie de dire, il y a vraiment un souci de la basse, des médiums, des aigus. Il y a un très très joli son qui nous embarque peut-être en premier. compris, même avant même votre, j'ai envie de dire, scénographie ou scène ou chorégraphie, c'est le mot que je cherchais, puisque c'est quand même de la danse aussi.
Aussi.
Beaucoup.
En fait, comme, c'est assez, voilà, je remarque ça en fait. Avec, encore, je compare avec le premier spectacle qui s'appelle 3. Les premières représentations, donc avec Guillaume, on était à deux à jouer. Et les premières représentations, les gens nous disaient, ah, la musique, elle est incroyablement forte.
C'est ça qui est bien.
Et du coup, nous, dans ce spectacle-là, on disait, bon bah voilà, heureusement qu'on a la musique, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, dans 3, nous, on a progressé dans notre chorégraphie. Et du coup, c'est plus la musique qui est plus importante. C'est un
ensemble.
C'est-à-dire que maintenant, les gens nous disent plus.
Ça a dû vous faire plaisir quand ils vous ont dit ça. Que la musique n'était pas forte. Que la musique, ouais, non, c'est bien, on entend tout bien. Enfin, tout est équilibré, ça
voilà,
a dû vous faire plaisir.
Et ici, comme on est. Là, c'était la 7e fois qu'on jouait hier soir. C'est un spectacle qui, au niveau mise en scène, est assez compliqué. Donc, du coup, je comprends que pour le moment, la musique, elle soit très importante. Mais je pense que l'année prochaine,
ça va s'inverser, ça va s'équilibrer. Ce sera, ouais. Donc, qui sont les petits nous?
Les petits nous, en fait, on manipule. Nous, on joue les adultes. Merci. Et on manipule notre enfance. On a des marionnettes d'enfants taille réelle, donc toujours petites, puisque c'est des enfants. Et c'est notre enfance qu'on manipule.
D'accord, comment vous les avez construites? Parce que je crois que ça a été moulé sur votre visage, si j'ai bien compris.
Et ça fait un peu peur.
C'est vrai?
Moi, elles me font peur, les petites marionnettes.
Ouais, c'est
surtout celle qui a une tête d'extraterrestre avec les yeux globuleux. Et qu'on dirait que c'est la créature de Roswell. Ouais. Je te jure, elles me font peur. Et puis en plus, elles ont un trou dans la tête et tout.
En fait, on a simplement moulé des... Enfin, simplement, ça a été un travail assez compliqué.
J'imagine, ça a été quand même assez compliqué, ouais.
On a demandé dans l'école, là où on vit, à l'Empole Poirzel, si des enfants étaient volontaires de mouler leur visage avec des bandes de plâtre. On leur a expliqué que c'était assez oppressant, quand même, mine de rien, de passer un quart d'heure, 20 minutes sans rien voir et en respirant très peu, parce qu'on laisse vraiment qu'une toute petite ouverture pour la bouche. Et du coup, on a eu 6 volontaires. Et sur ces 6 volontaires-là, on n'en a gardé que 4, parce qu'il y en a 2 qu'on a ratés, parce qu'ils étaient un peu stressés. Du coup, les masques étaient déformés.
On a moulé des visages et des mains d'enfants. Et
d'accord.
Après, toute la structure de la marionnette, elle est faite en bois, et un peu en reprenant la technique de la marionnette à fil. Mais on n'utilise pas la marionnette à fil, on utilise le squelette, en fait.
Et techniquement, après, dans ces masques en plâtre, on a moulé du latex, qui donne une texture de peau, voilà. Et
qui ressemble à la peau, c'est ce que tu veux dire?
Ouais.
Oui. Donc il y a manipulation de marionnettes, il y a chorégraphie, il y a costume aussi. On a parlé de la musique, il y a costume aussi dans le travail de l'une de plus. Alors que les costumes, il manque des bouts.
Ouais, il manque plein de bouts.
On a travaillé
c'est quoi, ce bazar
avec une jeune costumière.
C'est une jeune costumière, donc forcément, elle sort d'une école. C'est où cette école de costume?
Elle sort de l'ENSAT, donc c'est École nationale supérieure d'art et du spectacle. Voilà.
Donc forcément, comme elle sort de ses études, une costumière
Lyon.
Qu'on n'a pas payé très cher.
Ah.
Et maintenant, grâce à son CV, maintenant qu'elle a pu dire qu'elle elle a travaillé avec une de plus,
plus
maintenant, elle travaille, elle est au Canada.
D'accord.
Une de plus, donc, qui joue Juré Craché. C'est ça, c'est le titre du spectacle. 50 minutes, donc c'est à 23h03 tous les soirs.
Sur la place du théâtre.
Sur la place du théâtre. Enfin, c'est la place en face le théâtre. Un endroit un peu urbain. On est sous une espèce de voûte. Ça fait un peu construction des années 70.
Et un peu impressionnant au départ.
Ouais.
Parce que hier, quand on est arrivé, effectivement, moi j'ai eu un gros coup de stress en me disant mais c'est moche ce lieu.
C'est un peu moche.
Et en fait, effectivement, Claude, co-directeur du festival, est venu me rassurer en me disant « Mais tu vas voir, quand il n'y a plus de voiture... »
Quand il n'y a plus de voiture, qu'il fait nuit, et que votre éclairage et votre son avec les parois...
Que les lampadaires sont éteints.
C'est pas mal. Vous avez galéré à éteindre les lampadaires?
Non, c'est bon, on a...
C'est arrangé.
Et puis c'est bien, en fait, c'est un endroit calme par rapport au centre Place Allende. Je trouve ça toujours sympathique dans un festival d'avoir des endroits où tu t'en prends plein la tête et des endroits justement où tu vas de la vider la tête.
Du coup, donc il faut faire la démarche de partir un petit peu à l'extérieur.
Bon, c'est pas trop loin. C'est pas comme pas la magie vraie. Mais... Il a fallu qu'on fasse des kilomètres dans la montagne et tout pour aller les chercher. Ouais. On les a paumés.
Il y a des
fallu
montagnes
après.
Ici. Pas comme t'as vraiment fumé quoi hier soir.
Ça grimpe à Morlaix. Je suis désolé, ça grimpe. Et fort. Merci en tout cas, une de plus. Donc,
le spectacle Juré Craché.
Guillaume Perrault et Jean-Claude 03.
23h03, pas place du théâtre. On va accueillir pied en sol là maintenant.
On fait les tangos sumo aussi tout de suite là.
Non, en fait, après pied en sol.
D'accord. Ouais. Donc c'est Vedli.
Merci, une de sol, pied en plus. Maintenant, okay, on va venir faire un petit tour.
Bien, tout à l'heure. Bah, moi, je le vois.
J'avais pas dit bonjour en arrivant, alors bonjour et au revoir.
Merci.
Non, on a le temps, on vous laisse vous reposer.
Les gens du coin. Spécial compagnie bretonne. Donc, on va enchaîner tout de suite et maintenant, peut-être avec un petit sujet avant d'accueillir.
Le temps qui s'installe, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Canal B 94 MHz à Rennes et sur 103.8 fréquence mutine à Brest.
Et j'envoie un petit sujet de notre petite bénévole.
Vous avez vu le spectacle, hein?
Oui.
Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous avez vu?
Bah, des danseurs en costard.
Et c'est, ça t'a plu?
Bah, en fait, je sais pas trop, j'ai pas trop compris, moi.
Vous êtes des habitués?
Pas du tout, moi, c'est la première fois.
D'accord, qu'est-ce qui vous amène ici, en fait?
Bah, la passion de tous ces arts-là, en fait, la danse notamment, pour ce qui nous concerne, et la musique.
D'accord, et t'as vu des spectacles de pièces?
Je viens d'arriver.
Ah, d'accord.
J'ai encore rien vu, j'attends voir le prochain spectacle.
De Claire.
Voilà.
Ok.
Tout à fait.
Et vous avez d'autres spectacles en perspective d'aller voir?
Oui, moi, je veux voir les Sergent Pépère.
Ouais.
Et puis, bah oui, le programme, je trouve qu'il est très riche, ça donne envie de tout voir, en fait.
Ok.
Tango Sumo aussi, j'aimerais bien voir.
Ouais, tout la danse,
voilà.
C'est bien représenté cette année sur le festival.
Voilà.
D'accord.
C'est ça qui m'attire le plus ici.
Ok, bah bon festoche.
Merci.
Une journée d'une bénévole au phare.
J'ai pas fait la journée.
Ah déjà, ça commence à quelle heure alors pour vous?
Oh là là, c'est une question difficile, je sais pas.
C'est quoi votre mission?
Moi, ma mission, eh ben, elle a commencé sur les coups de 20h, sur le parvis de l'église Saint-Mathieu, pour accueillir les spectateurs qui venaient au spectacle du groupe Gypsy, je regarde mon ancien siège aussi, Burek Orchestra.
Aussi bénévole au
bénévole,
phare.
Voilà.
C'est la première année?
Alors au phare, oui.
D'accord.
Mais j'ai déjà fait du bénévolat. Pour un festival des arts de la rue dans la Nièvre.
Les accros de ma rue.
Les accros de ma rue.
Ok. Donc entre festivals, ils s'échangent les bénévoles?
Bah, c'est-à-dire que je suis venue vivre ici définitivement. J'ai quitté Nevers pour Morlaix.
Vous êtes aussi une mordue alors?
Complètement. Après avoir été accro, je suis mordue.
Accrochez-vous là où vous pouvez.
Alors vous allez vous accrocher au micro, s'il vous plaît.
Oui.
Pied en sol, bonjour Brigitte.
Bonjour.
Denis et Christophe.
Bonjour.
Voilà, pied en sol, compagnie de Redon.
Oui, de Redon.
Voilà,
de Redon.
Parce que c'est un spécial compagnie bretonne, donc dans ce début d'émission. Je vous rappelle, on est à Morlaix, entre 12 et 14. On vous propose sur Canal B et Fréquence Mutine simultanément un duplex, un petit plateau ici à Morlaix, où on accueille donc les compagnies de ce festival, la programmation de ce festival des arts de la rue.
Jusqu'à demain.
Alors donc, pied en sol, on vous l'a dit, compagnie de Redon. On vient d'écouter un petit son à l'instant, et c'était marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de truc, on prend des captations, on s'amuse à capter des sons. chansons. Ils ne le voient pas toujours, les compagnies, qu'on est là pour le faire, d'ailleurs pour voir leur spectacle, mais aussi pour prendre quelques extraits de ce qu'ils envoient comme son. Et là, on voyait tout de suite Brigitte réagir, mais c'est nous, c'est notre spectacle qu'on entend là dans la radio, dans le poste. Et effectivement, la clarinette, un peu de beatboxing vaguement. Je sais que ça travaille beaucoup avec des pédales de loop, comme on dit, des pédales qui font des boucles. Vous travaillez, alors c'est marrant parce que le musicien est technicien en même temps, il fait ses réglages, ses mix en même temps qu'il envoie le son. Puis dès qu'il pose un instrument, pof, il va danser parce que les deux autres ils continuent de danser tout le temps. Et il se passe plein de trucs. Et c'est comme l'a dit la petite fille tout à l'heure, des danseurs en costard. C'est ça, j'ai résumé.
Oui, des danseurs en costard. Vous voulez qu'on vous parle un peu du spectacle, ouais. Ou du son, comme on était parti sur le son du spectacle.
De Une de Plus, là, peut-être. On pourra peut-être dire un mot sur.
Alors,
le spectacle
de l'histoire
de
ce spectacle-là, c'est surtout une histoire. Ah, bonjour.
Voilà. Non, mais ça, c'est super radiophonique. Bravo,
nos
monsieur.
Nos copains nous manquaient, qu'on était tout seuls. On pensait qu'on allait tous être dans le studio. Et
non. Un par un, parce que sinon, c'est le bazar, vous connais.
C'est comme chez monsieur le curé, on est obligé de passer à confesse un par un.
Vous êtes pas grave, on va venir quand même.
Alors. L'histoire de ce spectacle, c'est surtout l'histoire de nous trois, si je peux commencer par ça.
Vas-y.
Donc, c'est une rencontre entre Toff, Denis... Bon, Denis et moi, un peu longue quand même. On a une histoire commune un peu longue, mais Toff un peu plus récente.
Vous voulez dire que vous couchez ensemble, c'est ça?
Ouais, non, depuis longtemps, quoi. Ça fait très longtemps. Donc, on a fait ce premier trio qui est Rue Taquin, tango argentin, guitare électrique... Et on avait très très envie de repartir tous les trois ensemble, sachant qu'effectivement nous sommes un couple à la vie, à la scène, mais surtout pas dans une histoire de couple. Donc il nous a fallu un long temps pour trouver vers quoi on allait aller, parce qu'on voulait vraiment aller vers un trio. Avec une donnée, c'est que Toff surtout ne joue pas de guitare électrique, l'instrument phare de la rue Taquin.
Du spectacle d'avant, d'accord.
Et l'autre donnée, c'était que Toff intègre des parties de danse, sachant qu'il démarre sa carrière de danseur à 37 ans.
38 depuis.
38, voilà, depuis
donc,
deux
des
jours.
Des paramètres assez complexes à mettre en jeu.
Oui, des gros, gros paramètres. Et on a beaucoup parlé ensemble. Alors, au départ, il y avait quelque chose qui nous avait beaucoup... sur lequel on avait envie de partir, c'était le bal des Torrescola. Mais c'est encore des histoires de couple. Alors, on s'est dit non. Et donc, sur Internet, on a tapé bal, baluche, bastring, cabaret. Et on est tombé sur le cabaret Voltaire, qui est ce lieu physique qui a existé en 1916, où toutes les formes artistiques étaient permises, où les artistes n'étaient plus sur scène, mais au milieu des gens. Voilà, c'est le début de l'histoire du cabaret Dada.
Oui, parce que, il y a aussi Dada, quand même, le dadaïsme.
Ah bah, le dadaïsme, voilà.
Alors, raconte-nous un peu le dadaïsme, parce qu'on en a tout le temps parlé, et personne ne sait vraiment ce que c'est, à part ceux qui ont lu Dada, ou qui sont baignés dans ce monde-là, avec des trucs qui paraissent, pour certains, peut-être un tout petit peu intello, dire « j'aime bien, je suis très Dada », ça fait peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, mais alors, comment est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas intello, le dadaïsme?
Alors, nous, on ne l'a pas du tout abordé comme ça, on l'a abordé d'une façon...
thématique, hein.
Très très ludique sur des thématiques que l'on s'est donné un peu de tirage au sort. Alors je vais vous donner des exemples
Vas-y,
très
parce
concrets.
Qu'on comprend rien pour l'instant.
Évidemment, des danseurs contemporains, chorégraphes. Alors on est parti sur des histoires très concrètes. Par exemple, il y a un tableau où on est parti sur des corps en mouvement. Pareil, Internet. On s'est fait une base de données de 150 photos de corps en mouvement que l'on a mis sur une base de données. Et pour créer un duo, on s'est tiré au sort 6 images chacun, mm-hmm. qui nous donnaient une façon de rentrer dans la gestuelle de l'image. Et on s'est fait une base de données de mouvement, de langage chorégraphique. Et après, ces langages chorégraphiques, on les a aussi tirés au sort pour créer la chorégraphie d'un duo, par exemple. Et c'était un peu notre thématique de travail sur toutes les chorégraphies.
Images en mouvement que vous les preniez sur à quel endroit ou dans la rue, comment?
Non, là, c'est la base. Sur Internet.
Sur Internet.
Là, c'est un exemple. Il y a eu d'autres exemples. Il y a eu sur du texte.
trouver des oppositions du texte. Notamment, je prends rien des mots, en fait, même pas du texte, des mots. Guerre, paix, pollution, la verdure, etc. Donc on a trouvé travaillé sur du texte, des mots, sur l'opposition. Ça, c'est un autre exemple.
En fait. C'est le dadaïsme.
Non, ça, c'est une forme à nous. Mais le dadaïsme, Brigitte, tu disais dire l'histoire, ce que c'est.
Tu parlais du côté intello un peu très clairement.
Qui peut paraître intello dans le dadaïsme.
Nous, très clairement, déjà, on est une compagnie de rue et notre grand plaisir, c'est de toucher toute forme de public, notamment les publics plus éloignés de l'univers de la salle, par exemple, des abonnés des théâtres. Et donc clairement notre démarche elle n'est pas du tout intellectualisante et la donnée c'est qu'on a pris le prétexte de l'univers dada vraiment comme un outil de création. Ça nous a juste servi nous de
référence à la base quoi.
Oui voilà et puis comme disait Brigitte parlait des images tirées au sort, des suites tirées au sort. On a beaucoup joué avec se laisser conduire par des techniques dadaïstes de coupage, de recollage et de pas essayer de diriger notre ou de préécrire notre langage musical, chorégraphique, mais vraiment se laisser porter par ce jeu, finalement, avec le texte, avec les images, avec les corps. Et on s'est retrouvé un moment avec de la matière, et on savait strictement pas ce qu'on allait en faire en tant que spectacle. C'était pas encore du tout ce point-là. Et on a travaillé avec notre metteur en scène, Fred Reynaud, qui nous a permis, là, de dessiner quelque chose sur 30 minutes, d'aller capter le public, de lui envoyer, pour le coup, des images, des sons, des couleurs, et vraiment de choper les gens dans la rue. Et du coup, on est bien loin de l'intellectuel en tous les cas. C'est juste un outil. Quoi.
On est parti sur l'idée de ne pas devoir faire une histoire. C'est-à-dire une histoire où on comprend un début, il y a un milieu, une fin, et tout le monde s'en sort content. On s'est dit, on va faire quelque chose qui sera justement des collages. Surtout, on va, quand je dis collage, qu'on a expliqué tout à l'heure, et qu'on n'ait pas l'idée de dire, voilà, on va avoir ce début qui sera là. Peut-être que le début sera peut-être au milieu. Et on a, en fin de compte, eu différents matériaux chorégraphiques, musicales, qui a fait que tout d'un coup, il fallait faire des vrais choix.
Bah, à un moment donné, il a bien fallu dire ce qu'on commence par ça, il y a ça au milieu et ça à la fin.
Ça a mis du temps, c'est pour ça qu'on a pris deux saisons pour le faire.
Deux années pour se décider qu'est-ce qu'on met au début, qu'est-ce qu'on met au milieu et qu'est-ce qu'on met à la fin.
En 2009, on a fait quelques mois de travail ensemble, et 2010, la même chose. Et pour vraiment finaliser l'aboutissement.
Est-ce qu'il va bouger encore ce spectacle ?
Je pense qu'il y aura encore des petites modifications, parce qu'on voit bien que quand on le joue, il y a des choses qui peuvent encore se peaufiner.
On est plus dans le peaufinage que dans la...
Voilà, là on est
C'était la combienième représentation là, hier ?
Ça doit être peut-être la dixième par là.
On le jouait une quinzaine de fois cet été, cette saison, pour la première saison.
Création 2010.
D'accord, création 2010. Donc pour Gabaret Dada.
Moi j'aurais envie de dire que c'est un peu, il faut le prendre comme un tableau je le pense comme un tableau de tous ces peintres surréalistes qui sont issus du dadaïsme, tout simplement comme ça, quoi.
Alors ça veut dire quoi ? Alors surréaliste, on a vaguement abordé Dada, maintenant surréaliste, ça veut dire quoi ? Mais je sais pas, que ça veut dire ça.
Du cabaret Voltaire, toi tu t'arrives très bien à en parler d'ailleurs.
Je crois que c'est tout sauf de la narration.
Ouais, c'est-à-dire c'est dérangeant ça.
Tu sais, tu parlais du cabaret Voltaire, c'est vrai qu'on s'est documenté sur cette histoire à Zurich en 1916 avec Hugo Ball qui ouvre ce lieu où sont passés des artistes mythiques comme Picasso, Kandinsky pour l'image, etc. Et c'était 1916, donc il y avait aussi une réaction vis-à-vis de la barbarie, de la guerre, et il y avait besoin à un moment peut-être de sortir de certains carcans et de remettre un peu l'humain au centre des choses,
sans entrave. Le poids de la religion, poids de la pensée républicaine unique liée...
Et il y a ce côté du coup un peu ambivalent entre la violence de ce moment-là et le besoin d'aller chercher autre chose dans l'humain, et ça c'est quelque chose qui nous a porté sur la création, et j'ai l'impression que les gens reçoivent cet aspect, c'est important pour nous.
Bien que vous soyez en costard, représente quand même un petit peu.
Denis peut peut-être nous dire un mot sur cette histoire de costume qui a été quand même.
Costard cravate.
Une histoire, un peu trop court.
Un petit côté Blues Brothers, j'ai envie de dire, dans le côté.
On avait fait un choix avec le costumier de partir sur. Un costume, un vrai costume de scène, quoi, qui fait plaisir.
Un tutu, tu veux dire.
Quelque chose qui nous dit, on va faire un vrai costume Et puis il a dit voilà, j'ai une super idée, on va travailler sur le costume civil, mais sur on va déstructurer ce costume. Donc je trouve ça intéressant parce que du coup on allait avoir un costume qui allait évoluer dans le spectacle, c'est-à-dire qu'il allait partir pas en lambeaux, mais dans quelque chose d'esthétique, c'est-à-dire plus la manche, une manche. Finalement, il a vu avec nous les premières répétitions en costume. Bon, on a acheté nos costumes tout neufs, voilà.
Un costume tout neuf.
Il disait oh, super. Bon, là vous achetez. Il avait amené ses ciseaux.
Ses intailleurs.
Il avait amené son. Hein, on va commencer à tailler là-dedans. Ça va être super. Il regarde le premier tableau, le deuxième tableau. Il dit rien. Il bouge pas. On s'arrête un peu, il dit, bon, qu'est-ce que t'en penses ? Tu crois qu'on peut commencer à
tailler ?
Il dit, bah, je crois que c'est très bien comme ça, finalement. On va rien faire, peut-être les ourlets. J'ai dit, c'est pas possible.
Mais j'avais vu une pièce comme ça, chorégraphique, sur Arte, qui se passait dans un pub, et ça m'avait choqué, parce que c'était la première fois que je voyais, enfin, des gens finalement habillés normalement comme à la ville, c'était un truc anglais, qui dansent dans un bar, voilà, comme ça, et qui font plein de gestes dans tous les sens, avec une chorégraphie danse contemporaine. J'avais halluciné et trouvé ça, mais ça, c'est génial, parce que là, il y a quelque chose qui me parle, tout simplement, comme si les gens normaux se mettaient à péter les plombs sous l'empire de la Grimbergen, la Guinness ou autre substance bizarre. Mais ça, je trouve ça intéressant, parce que effectivement, la danse, à chaque fois, il y a des costumes. Non, habillés comme tous les jours, quoi. Pourquoi pas
Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est ce côté, enfin, tout ce que colporte le costard cravate.
Bah oui, c'est excellent.
Sauf que, enfin, je suis une femme et je le porte aussi. Et c'est comment ça disjoncte à l'intérieur. Comment
ça crée un décalage.
Et c'est justement grâce à ce costard cravate que tout ce disjonctage y sort. Et puis. C'est un côté un peu contestataire. Enfin, moi, j'aime ce côté un peu contestataire. On est des gens. Déjà, c'est pas normal de. On va dire que on est dans une société où on a envie de nous mettre dans un moule et que tous les gens pensent de la même façon, agissent de la même façon. Et là, on rentre avec ce moule, mais on agit comme nous, on a envie d'agir. Et pour moi, c'est un grand, grand espace de liberté. Et une autre contestation, enfin que là j'ai envie d'affirmer maintenant, c'est que nous on est aussi à des âges où normalement on dit là c'est plus possible, vous ne dansez plus, c'est terminé, la carrière de danseur c'est 25-35, donc Toff la démarre à 37. Et nous on vient d'avoir 49 ans et on a c'est toujours possible. Et ça c'est aussi une autre façon d'affirmer que les choses sont possibles autrement, quoi.
Et contester des choses établies. Pied en sol, donc Cabaret Dada, on va être obligé de se quitter parce que ça enchaîne derrière avec les Sergents Pépère, Fiction chorégraphique et Mécanique sonore. Je vous invite à voir leur spectacle, le son est très bon, un très très bon son aussi, je sais pas.
Donc il reste une de plus,
mais vraiment il y a une très très bonne zig, j'ai beaucoup apprécié, une espèce de pareil, un truc un peu comment dire, trip-hop, peut-être à certains moments, ambiante, trip-hop, des beats groovy qui donnent envie comme ça. Ouais.
Et donc, ça, c'est quand même une création de monsieur Christophe Duclos.
C'était la dernière question que je voulais poser. Et ça sonne très, très bien. Bravo pour la musique, Christophe, qui joue en plus en direct sur des bandes, des boucles, etc. C'est assez intéressant et impressionnant.
On vous retrouve ce soir pour une dernière représentation à 20h03 sur la place des Otages. Merci d'être passé.
Merci
et un grand merci au phare de nous accueillir.
Voilà, vous êtes bien sûr Canal B sur Fréquence Mutine en même temps pour le Festival des Arts de la rue de Morlaix. On va accueillir Sergent Pépère juste après un petit peu de musique, le temps qu'ils arrivent,
le temps qu'ils s'installent, le temps qu'ils viennent, puisqu'ils sont en live d'ici quelques minutes. On aura donc un grand live dans les studios.
On écoute Tony Allen qui passe au Festival du Bout du Monde, c'est à Crozon dans quelques jours. We'll be right back.
Voilà, à l'instant, c'était un morceau tiré d'un album de New Cool Collective qui accueillait Tony Allen à la batterie. Tony Allen, qui, je vous le rappelle, n'a absolument rien à voir avec le Festival des Arts de la Rue de Morlaix, où on est à Morlaix, je vous le rappelle aussi. Mais il est présent au Festival du Bout du Monde et je peux aussi, ça me permet de vous raconter que sur Fréquence Mutine et sur Canal B, vous pourrez entendre des plateaux de 17h à 19h.
Vendredi, samedi, dimanche, depuis le Bout du Monde.
Depuis le Bout du Monde, à Crozon, dans le fort.
De Landaudec.
Landaudec, un endroit où
il fait froid.
Où il fait froid, mais par contre, on va pouvoir rencontrer plein d'artistes du Festival du Bout du Monde. Retour donc à Morlaix pour l'instant, puisque
on accueille dans les studios les sergents Pépère.
Alors j'aime bien les studios. En fait, c'est le local informatique de l'école de Pendoen de
Landaudec.
Caire de Braz de Caire. Et dans les coulisses, alors c'est drôle parce qu'il y a les sergents Pépère qui sont là, prêts. On leur a dit, vous venez faire un petit morceau. Ils ont fait chimpan et tout. Puis finalement, allez, après un ouvert ou deux, une conversation. Alors en fait, votre nouvel album, quand est-ce qu'il sort? Ah bah, faut me l'envoyer, j'en parlerai. Finalement, j'ai fini par réussir à les convaincre. Et ils sont là. Pour eux, c'est le matin de bonheur, quoi. Ils joueront ce soir. Ils sont là. Ils ont plein de choses à nous raconter sur leur nouvelle création. Et puis surtout, ils sont prêts à nous jouer en direct de la musique pour Canal B et Fréquence Mutine, c'est quand vous voulez, les garçons. Les sergents Pépère.
Thank you.
Merci beaucoup les sergents Pépère, donc à l'instant sur Fréquence Mutinée sur Canal B en direct. Ils étaient là dans la petite salle, une petite réverbe naturelle dans la salle. En plus, c'est pas mal, c'est très très bien. Bravo les garçons, et vraiment vous êtes bien les Pépères. C'est ça qui est bien avec votre nom, c'est que les sergents Pépère peuvent dire allez-y les Pépères. Tu vois, ça fait très. On a Philippe Languille avec nous qui a décidé de les accompagner, qui ne joue pas avec les six musiciens qui sont là. Alors il y a une espèce de sous-basson, il y a un trombone, il y a un saxophone dont j'ai jamais vu l'exemplaire avant. Rico, c'est quoi ce saxophone? C'est un truc, c'est un mini contraltito ou c'est un truc, un soprano, voilà. On a un accordéon et on a un monsieur aux percussions aussi. Alors Philippe Languille, toi, tu ne joues pas avec, par contre, tu danses. Tu es la danseuse du groupe.
Voilà. C'est ça. En l'occurrence, je suis la danseuse du groupe des Sergents Pépère que j'ai rencontré un jour tout à fait par hasard du côté de Rennes, et voilà, ils m'ont demandé de les faire bouger, déplacer, placer tout ça sur scène, en fait.
En fait, tu es le metteur en scène des Sergents Pépère, c'est
voilà,
ça
c'est ça. J'ai pas trouvé le mot exact.
Le chorégraphe.
Peut-être un peu, c'est un travail de regard extérieur sur le mouvement, sur la circulation, sur l'énergie. Le metteur en scène, c'est quand on parle de metteur en scène, en fait, c'est celui qui crée une esthétique. Or, c'est pas vraiment le mot qui convient parce qu'ils ont déjà leur propre esthétique, leur façon de bouger, leur façon de.
Non, mais j'ai appris qu'ils avaient changé. J'ai appris qu'ils faisaient plus, par exemple, forcément que de la musique de l'Est. Là, on s'est rendu compte tout de suite. C'est plus soul américaine, un petit peu de reggae quand même dedans et tout. Plus jazz, j'ai envie de dire, que ce qu'ils faisaient avant. Les costumes ont dû changer aussi, je suppose, pour la
Les costumes sont. Les costumes sont super. C'est Cécile qui les a conçus. C'est des costumes qui, faut venir voir, qui mettent en valeur tout le mouvement, toute l'air, tout le souffle.
Alors, parce qu'on n'a pas pu les voir faire les mouvements, la mise en scène, elle était
non,
parfaite.
Non, il vous manque là l'image.
D'accord.
Il vous manque l'image, mais c'est ça, c'est une totalité. Et
une totalité. Alors là, t'as tout dit là.
Ouais, ouais. Je l'avais bien dit que ça aurait été pas mal qu'il y en ait un qui vienne m'accompagner à gauche, parce que tu vois, je me suis mis à danser en fait en début de
spectacle, de la prestation.
Je me suis mis à danser et juste après, je me suis dit mais c'est le geste de trop, parce que j'aurais dû rester assis et les regarder, parce que franchement, ça suffisait largement.
Ouais.
Du coup, là, je manque de souffle.
Ok. Alors, les Sergents Pépère, tu les as rencontrés comment? À Rennes, dans un bar? Ils t'ont appelé, Philippe Languille, viens bosser chez. On a besoin d'un metteur en scène. Comment ça s'est passé?
En fait, ils m'ont appelé parce qu'ils savaient que je travaille souvent comme comédien avec des musiciens. Et je m'entends bien.
Notamment
avec
Phil de la Tordue, par exemple.
Phil, Pierre, enfin, les ex-Tordues.
Ouais.
Tordues, une histoire terminée depuis 2004.
Et une formation de Nantes aussi qui s'appelait.
Alors, j'ai travaillé avec les Lojo, un groupe qui s'appelle Lojo.
Ouais, ça c'est Angers. Et la formation de Nantes où
September Song.
September Song.
Garage Rigaud. Voilà. En fait, parce que aussi je m'entends bien avec les musiciens et parce que dans le théâtre, c'est pas toujours évident de faire la fête après le spectacle parce que les centres culturels maintenant sont des espèces de cathédrales ou glacial, et quand le spectacle se termine, en général, on vient vous accompagner, on vous dit, monsieur, maintenant, la sortie est par là. Et donc, souvent, après les spectacles, on se fait vraiment... on se fait chier.
On se fait chier.
Et alors qu'avec les musiciens, il y a quelque chose. J'adore, en fait, être avec eux.
Tu veux dire qu'on fait... Attends, si je résume ce que tu viens de dire, on fait plus la fête avec des musiciens qu'avec des théâtreux.
Alors là, c'est
ça que tu es en train de dire.
Attention
à ce que tu es en train de dire.
Attention, c'est un spectacle un festival.
C'est pas comme si tu étais en direct à la radio.
Une façon, je sais qu'il y a beaucoup de gens du théâtre qui, en ce moment, m'écoutent, mais j'assume mes paroles. J'assume parce que, quelque part, c'est statique. Voilà, je travaille de...
C'est vrai qu'on a fini tard.
C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et en plus, le regard, par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi que les Sergents Pépère, c'est un groupe de gens qui jouent non seulement de la musique, Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est leur présence. Leur présence de jeu physique, ce sont des gens qui aiment jouer.
Des personnages.
Ouais, et qui aiment jouer, qui ont une capacité au jeu. Et donc moi, là, je suis là, en fait, simplement pour organiser toutes ces présences et en fait que le spectacle ne soit pas un concert comme ça, à un endroit donné, que ce soit tout un spectacle du début à la fin.
Ah, c'est vrai que c'est ce qui manque souvent chez les musiciens, bien souvent. C'est vrai que.
Oui.
Mais c'est difficile de faire les deux, jouer la musique, un concert, et en même temps jouer la comédie, jouer un rôle. Alors, Dani, je suppose que c'est l'handicapé mental. Je vois bien Rico pour l'homosexuel. Mathieu, c'est Avrel. Tu vois, j'essaie de. Non, comment t'as fait pour trouver les deux personnages ?
C'est assez juste. C'est juste. Voilà, il y en a qui dorment au pied du camion le matin, enfin, etc. Non, mais par contre, non, tu disais que les musiciens aiment bien qu'il y ait de la mise en scène et un regard extérieur. Or, 90% des groupes qui ont envie de ce travail-là ne sont pas prêts à ce travail-là.
Et comment on le sait c'est quand un groupe est prêt ou pas ?
Parce que je ne sais pas pourquoi les musiciens ont envie de mise en scène. Bon, moi, ça m'arrange quelque part.
Ah oui, forcément.
D'une certaine façon, ça m'aide à faire bouillir la marmite. Dans cette société de consommateurs. Mais beaucoup ne sont pas prêts, parce que beaucoup disent « Oui, on aimerait qu'il y ait du théâtre, du jeu, que ça bouge et tout ça. » Mais en fait, tu t'aperçois que c'est très difficile de déplacer des musiciens au bout d'un moment.
Surtout le batteur.
Ouais, surtout le batteur.
Le pianiste.
Il a quand même une machine terrible. Hein.
Celui-là, il n'est pas évident à bouger.
Et pourtant, il peut bouger, car on peut quand même décrire tout petit peu. C'est une déambulation, c'est Jean Pépère, cette année ou c'est
ça
vraiment...
n'est plus, du vent sous les robes. Le spectacle qui s'appelle Du vent sous les robes, ça n'est plus une déambulation. C'est un spectacle qui est en fixe et qui sera salle et rue. Le concept salle et rue. Salle et rue.
C'est un nouveau mot. À noter que la batterie donc, du batteur de Sir Pepper est installée sur une espèce de structure métal sur roulette. Je ne sais pas qui a fabriqué ça, mais c'est assez énorme.
Hein. Laurent, des rouilles-gorges. D'accord. Voilà, c'est superbe cette machine.
Super, hein.
Elle est super. Et en plus, il n'y a qu'un modèle et elle est solide. Donc ça, c'est excellent. Ce n'est pas une déambulation. Quoique les sergents Pepper, ils vous dira ça mieux que moi. Plusieurs spectacles aussi, déambulation, mais celui-ci c'est différent, c'est un spectacle du début
alors,
à la fin avec le souffle, avec l'air.
Ouais, parce qu'il y avait le bal public,
bal pépère qui d'après ce que j'ai pas pu voir encore, parce qu'il y avait tellement de monde au tombé de la nuit quand j'ai voulu aller les voir, et un ensemble de reprises.
Ouais, voilà, c'est un bal, un vrai baluche.
Voilà, un vrai bal. Après, les Pépères sont. C'est un groupe qui est capable de jouer partout, quoi. D'accord. Et même ici, quoi. C'est donc.
Et même ici. Et puis d'ailleurs, on va peut-être leur dire de. Ah, bah tiens, il y a Mathieu qui vient s'installer.
Mathieu.
Mais non, mais pas sur celui-ci, parce que je l'ai débranché pour pouvoir brancher un statique. Sur le rouge, si tu veux, Mathieu, dire un petit mot, là. Mathieu, le sous-bassophoniste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit.
Si, c'est comme ça.
Un sous-bassophoniste.
Tout à fait, Paco.
C'est quoi ? Décris-nous cet instrument.
Le souba ? C'est un cuivre, voilà, famille des cuivres, instrument à embouchure et pavillon, instrument en métal.
Un détail, il est énorme.
C'est un gros instrument. Ouais.
C'est un gros instrument qui doit bien faire son 1,50 m de hauteur quand il est posé.
Oui, c'est ça.
Et toi, ça tombe bien, comme tu mesures 2,05 m, c'est parfait, ça marche.
Ça fait 3,55 m.
Et toi, tu fais les basses avec ?
Ouais. Tout à fait.
C'est tout ce que tu es venu dire ?
Non, mais vous parliez des spectacles, de la déambulation. Donc voilà, petite précision, qu'effectivement, on fait aussi de la déambulation, mais ce n'est pas notre activité première. Voilà. On a un autre spectacle, Du vent sous les robes, dont Philippe, notre metteur en scène, a bien parlé. Et aussi notre ancien spectacle, Bon pour un tour, qui était aussi un spectacle en fixe, mais plus concert, on va dire, musical. Le bal pépère, donc pour faire danser les gens. Le bal pépère,
ça
fait pas le bal public.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et puis éventuellement des petites déambulations par-ci par-là.
D'accord.
Alors j'ai envie de te poser à toi, enfin te prendre en témoignage. Il a dit qu'il vous avait mis en mouvement. Comment il t'a mis en mouvement toi? Parce que l'instrument est déjà lourd. Tu passes pas partout parce qu'il faut une certaine hauteur. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton rôle?
Il m'a indiqué des pistes en fait de pour. Enfin moi c'est vrai que avec cet instrument là je suis un peu
coincé.
Un peu coincé et en même temps, je joue toujours. Donc c'est vraiment dans le mouvement, quand je suis en train de jouer, que je peux réussir à faire quelque chose. Et il m'a donné des pistes, par exemple. Je sais pas ce que tu m'as dit hier.
Moi, cet instrument, quand il est placé au-dessus de Mathieu, parce qu'en fait, le pavillon, là, de cet énorme instrument...
Ce qui envoie le son, en fait.
Ou hélicon, en fait, est un peu comme une énorme bouche. Comme si on avait en fait une énorme marionnette. Et cette grande bouche, ce qui est intéressant, c'est que Mathieu peut s'en servir pour d'arrosoir carrément pour le public et d'envoyer le son en direction du public. Et donc de dédoubler la présence à la fois de l'instrumentiste. Et avec cette bouche, ça fait carrément un mannequin qui arrose en haut, en bas. Et puis bon, on l'a pas encore tout à fait vu. Mais il y a des performances, comme chacun d'entre eux, parce que c'est ça qui m'a carrément estomaqué, parce que si je travaille avec les pépères, c'est d'abord la musique, moi.
Vous comprenez toujours, les musiciens, vous comprenez toujours ce que dit le metteur en scène, à chaque fois, non ?
Ah si, si, oui.
Vous arrivez à comprendre ce qu'il dit ?
Globalement, quand on ne comprend pas, on lui demande, puis il nous explique, de toute façon.
Oui, c'est ça, on parle par signe.
Par signe.
Non, et puis en plus, moi, je ne tiens pas tellement à rester sur ma chaise quand je suis avec eux. C'est que je danse avec eux, tout ça. Je n'ai pas la connaissance
de la
musique.
Tout à l'heure, quand on a commencé à jouer, tu t'es mis à danser et ça résume aussi un peu le travail qu'on fait ensemble. Tu nous donnes un peu l'énergie, quoi. Ton énergie aussi, quoi.
En fait, c'était ça que je voulais dire.
On appelait ça le baron dans le temps, non ? C'est pas ça ? Quelqu'un qui riait pour faire rire le public, qui était un peu payé pour ça. C'est le baron, je crois, qu'on appelait ça au théâtre. C'est-à-dire un mec qu'on paye pour.
À ne pas confondre avec le pétomane de l'Eldorado, qui était à la même époque et qui était capable de faire des concerts dans une bassine.
Ah bon ?
D'accord. Oui, c'est vrai, il a vraiment existé. Et les bourgeoises de l'époque se déboutonnaient le corset et tombaient d'inanition et on venait. Et donc,
elle riait.
Voilà. Et on est dans une époque où, je pense, dans certains...
Le pétomane pourrait revenir.
Voilà, dans certains hippodromes, tout ça, où, voilà, il pourrait y avoir encore besoin de faire un énorme paix et un coup de pied
les hippodromes.
Au cul, quoi. Voilà.
D'accord.
Mais... ça résume pas la mise en scène.
Sergent Pépère va recommencer à pouvoir s'installer. Dans quelques instants, ils vont pouvoir nous refaire un autre extrait de leur spectacle Du vent sous les robes.
Du vent sous les robes, spectacle qu'on retrouvera.
Du vent sous les robes.
Oui, c'est
pourquoi
ça.
Parce que du vent sous les... il y a une petite connotation quand même.
Il y a un clin d'œil.
Brigitte Bardot. Ah ben, pardon, pas Brigitte Bardot. Marilyn Monroe, pardon.
Marilyn Monroe, certainement beaucoup plus que Brigitte Bardot. Je sais pas, faudrait leur demander.
Déjà, enfin, ils portent des robes.
Le souffle qui soulève la robe, ça raconte quand même une grande partie de la vie.
Ouais.
Et c'est quand même magnifique.
D'accord.
Hein, parce qu'on peut imaginer, et c'est quand même tout ce qu'on peut imaginer avec ce titre.
D'accord. Vous imaginez, c'est des malins, hein, ils se débrouillent pour mettre un titre comme ça, un tout petit peu affriolant, un petit peu derrière, hop, de quoi susciter la curiosité. Cathy, tu voulais dire?
Non, je voulais juste repréciser que si le live que vous allez entendre d'ici quelques minutes vous donne envie de voir ou revoir ce spectacle, ils seront donc ce soir à 17h17 cours des Jacobins et demain à 21h33.
D'accord, ils jouent une seule fois. Non, c'est ça ? Je croyais qu'il jouait deux fois.
Ah, c'est deux fois, oui.
17h, 17h13
et 21h33. Voilà.
Sachant
ce
que,
soir.
Très important, on va commencer vraiment très, très, très à l'heure.
Ah oui.
Cet après-midi et ce soir, même peut-être légèrement en avant.
Donc il faut venir prendre place.
Ouais.
Un petit extrait de Du vent sous les robes par les Sergents Pépère. On est au phare de Morlaix et vous êtes en direct. Nous sommes en direct sur Fréquence Mutine et Canal B, 94-103.8. Thank you. Bravo les sergents Pépère en direct sur Canal B, sur Fréquence Mutine pour le phare. Bravo et merci, au revoir, bonne chance et puis que la vie vous soit douce, etc. Super, ça envoie, ça envoie. On va écouter juste un petit sujet. Voilà, un petit sujet réalisé par Clémence. Alors c'est marqué, c'est marrant, sujet Clem, Belge Hannibal. Il y a des Belges et Hannibal apparemment qui sont sur le festival de Morlaix.
On est en vacances ici, mais on vient spécialement à cette période-ci, parce que justement, il y a le festival de théâtre de rue de Morlaix. Ah, mais on revient chaque année, ça c'est vrai.
On est ici d'abord pour la Bretagne, et maintenant on vient aussi pour le festival.
Ah, c'est super. Voilà.
Oui, on organise nos vacances en fonction du festival.
Merci de votre témoignage. Voilà. C'est pour la radio du festival, c'est ça.
Pas pour tous nos personnages. Il nous fallait pour cela une star. Il nous fallait une vedette.
Et Angelo. Ouais, je sais, t'as plus de micro, c'est moi qui contrôle tout. Tu m'as pas présenté. Tu me présentes, je t'emmène le micro. Vas-y. Vas-y, non, excuse-moi.
Et Angelo, le technicien. Quant aux autres personnages, étaient mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le connaissez toutes et tous, car vous les avez vus à la télévision et au fourneau de Brest. Et ce soir, mesdames et messieurs, après avoir joué à Tokyo, Berlin, Philadelphie, Miami, Honolulu, Pékin, Athènes, Madrid, Rome, il est là, à Morlaix, Roger Clément. Je vous avais promis du sang, de la sueur,
sueur et des larmes. J'espère vous avoir comblé.
Voilà le petit sujet. Ah, bah oui.
Non, mais on chantera une autre fois.
Ah, si, non, allez-y, c'est bien, c'est super.
C'est bon, on y va ?
Ah, c'est Tango Sumo qui est avec nous.
Signore Abate, io sono ammalato. Santo Padre, vieni e datemi la benedizione, la benedizione.
Santo Padre, vieni e datemi la benedizione, la benedizione. Ordine
Teufel. C'est à toi de faire la troisième.
Alors là, bravo, Tango Sumo. Ça y est, nous sommes rentrés dans le festival. Autant, hier, la journée était, ça avait un petit peu de mal à décoller, mais là, je crois que ça y est. En ce deuxième jour de festival des arts de la rue de Morlaix, version 24e édition 2010.
Pour laquelle les Tango Sumo fêtent leur 10e année.
Ah, alors
c'est
les
un anniversaire.
Oui, sont c'est un joyeux aussi, anniversaire.
Vous êtes aussi des Bretons, parce que vous faites partie de cette, voilà, de cette première, de ce début d'émission consacrée aux compagnies bretonnes. Je vais y arriver. Spéciale compagnie bretonne, vous êtes d'où, de Bretagne ?
Morlaix.
Morlaix ? Ouais. Vous êtes Montreux du coin d'ici, là. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher des micros pour bien parler tout près comme je fais, là ?
Comme ça ?
Voilà,
comme ça. C'est bien.
Comme ça, tu as une voix chaude et l'auditrice, ce sera vraiment
attrapé. Je pourrais parler avec ma voix suave.
Voilà, comme ça.
Ça sera jamais aussi chaud que la danse, quoi.
Alors, si.
Tango Sumo, compagnie de danse, mais qui joue sur un ring de boxe. Hein.
Voilà. Pourquoi vous faites ça ?
Ça, c'est le couteau. sur le fil du rasoir, c'est le côté sumo en fait.
D'accord, fil de rasoir, sumo, ring.
Voilà, ben,
déjà,
tango,
sumo, c'est pas
le
sur
tango,
un ring.
Ouais, mais justement, c'est un art martial.
Ouais.
Tu vois, les sumos en plus, ils sont lourds, ils sont énormes par rapport à la grâce des danseurs de tango et le côté.
Donc ce qui vous intéresse, c'est le décalage.
Voilà. Mmh.
Donc le tango, c'est une danse. Qui est un petit peu un combat aussi, effectivement. C'est pas c'est assez une pensée un peu récurrente. Il y a un combat entre la femme et l'homme. Attention, ça se regarde avec
une harmonie plutôt, non ?
Ah, il y a les deux justement. C'est là qu'elle a
l'ambiguïté. Certaines tensions dans l'harmonie, ouais. Voilà. En fait, tango sumo, c'est le ring. Le ring au départ, il s'appelait tango sumo. C'est-à-dire que c'était le pari d'Olivier Germser, chorégraphe de tango sumo, de mettre les danseurs dans le ring. D'où ce concept tango sumo, les danseurs dans le ring.
Ah, pourquoi il a eu cette idée ?
Je sais pas, faudrait lui demander. Il est pas là.
C'est le metteur en scène et vous avez dit, d'accord, on y va.
Et finalement, c'est devenu le nom de la compagnie. Mais c'était le nom du projet.
D'accord.
Voilà. La compagnie s'appelait Les Saltimbanques.
C'est
d'ailleurs.
Ça, bravo.
Eh oui, on a notre spécialiste des arts de la rue avec nous. Voilà, la présence d'Aurélien, du fourneau. Aurélien.
Maître Capello.
Exactement. Qui sait tout et qui connaît tout sur les arts de la rue.
Alors Tango Sumo, ouais, vous fêtez vos 10 ans cette année, il y a plusieurs spectacles pendant le phare.
Oui.
Vous proposez des choses différentes.
Bah là on est un peu à l'honneur. C'est un peu...
fête.
La
à
fête,
la
grande occasion. C'est des pièces qu'on a toutes jouées déjà ici, mais différentes années. Et là voilà, en effet, c'est les 10 ans. Donc premier round, deuxième round hier, paddock aujourd'hui, paddock demain. C'est pas tout. Hein. Il y aurait pu y avoir Moyen Plume qui joue pas. Qui n'a pas été
retenu dans la sélection.
Ouais, quoi. C'est ça, ouais.
Alors, quelle est la différence entre premier round, deuxième round et paddock ?
Alors, premier round, c'est donc le ring. Donc, comme je disais, c'était tango sumo la pièce. Finalement, c'est devenu tango sumo la compagnie. Et le ring, c'est vrai que le ring est un sacré dispositif. Et du coup, il a voulu rebosser, vu l'ampleur du ring, il a voulu rebosser une deuxième pièce avec le même ring. Donc la première, c'est juste trois personnes, un accordéoniste nature, juste l'accordéon. Deuxième, on est passé à quatre, et avec une volonté par exemple, musicale d'être beaucoup plus contemporaine, plus actuelle. Là, il envoie des effets pas possibles à travers l'accordéon. Il y a une créa de bande-son électronique aussi qui a été faite avec. Et voilà. Et du coup, comme on a fait un deuxième volet dans le ring, c'est là que c'est devenu premier round, deuxième round. Voilà. Donc ça, c'est le ring. Et puis Paddock, Momo va vous en parler.
Voilà, chacun son tour. Momo.
Alors, Expédition Paddock, c'est une pièce peut-être beaucoup plus brute. Parce qu'on là, par exemple, on n'a pas de sonorisation, on n'a pas de bande sonore, on n'a pas de musique.
Vous dansez sur pas de la musique.
Voilà.
On sur danse le, comment
sur
t'as
pas
dit
de la musique.
Voilà, c'est en fait la musique qu'on l'a fait en dansant. Ah. Les mouvements, la parole qui est le grommeleux.
Le grommeleux.
Ouais, le grommeleux, c'est-à-dire c'est un langage inventé en fait. Qu'on a inventé au départ parce que c'était un grand déambulatoire et il fallait pouvoir se donner des informations par rapport différentes formations qu'on prenait, la scène qui allait suivre à tel ou tel endroit, même si on avait fait les marquages, on avait quand même beaucoup de choses à gérer en temps réel, quoi. Donc on a créé ce grommeleux-là qui avait des significations bien précises, autour duquel on brode bien sûr et autour duquel aussi on rajoute des accents différents.
Un grommeleux quand même à consonance russe.
Ah, c'est une base déjà. Ouais.
Et en effet, souvent on arrive quand même à bluffer le public, même en France. Ils se disent mais ils sont vraiment de l'Est, c'est vraiment des Russes ou je sais pas quoi. D'ailleurs on est allé en Russie, on a joué à Saint-Pétersbourg cette année-là, il y a un mois et demi. C'était la grande fête de la ville de Saint-Pétersbourg. On s'est un peu demandé ce qu'on allait faire, si on allait garder notre grommeleux russe et s'ils allaient pas croire qu'on se foutait d'eux, quoi. Mais voilà, finalement, on l'a fait. On s'est presque demandé si on n'allait pas faire un grommeleux français.
Est-ce que c'est parce qu'à Morlaix, on est un petit peu loin de tout, qu'on a envie de se référer à la culture japonaise, sumo, la culture argentine, tango, et maintenant du grommeleux russe?
Ouais, loin de tout, ça veut dire quoi?
On est un peu
dans le fil. C'est un rennais.
Hein. Ouais. Non, je fais de la provocation parce que je sais que ça marche à tous les coups avec Karen.
C'est bon.
Les Bretons, ils adorent.
Mais c'est vrai que là, t'es au bout de la terre. Hein.
Bah voilà.
Bientôt, enfin, c'est Brest surtout, mais là, Brest même qui est le bout de la terre. Ici, on y échappe encore, mais on n'en est pas loin. Donc, on a besoin des fois de se rattacher
et de
plus
voyager.
Loin que la France, voilà, et de voyager.
Parce que là, c'est clair qu'il y a cette espèce d'antipodie. Vous êtes un peu partout dans le monde à travers ce spectacle. C'est fait exprès, inconsciemment ou comment vous avez...
Non, ça a été les occasions.
Non, mais tant qu'à faire, si tu montes un spectacle, autant dire première mondiale, première internationale et te vouer à faire le tour du monde avec.
D'accord.
Plutôt que de rester régional.
Vous auriez pu le faire du grommeleux breton, par exemple, vous auriez pu.
Ouais. C'est vrai.
Peut-être pour la prochaine.
Mais c'est vrai que les tangos sumo, ouais, ils ont la parole modeste, mais
alors, vas-y.
Mine de rien, pour une compagnie, l'envergure qu'a pris cette compagnie en 10 ans, puisque là, en fait, effectivement, les 10 ans, on parlait de la Russie, et je crois que vous avez fait vous êtes allé sur le Brésil aussi, notamment pour l'année de la France au Brésil. Voilà, que ce soit une des compagnies qui soit choisie pour représenter la France, enfin l'art français, l'art en mouvement, le spectacle vivant français. Voilà, je crois que ça en dit long aussi. C'est vrai que sur le phare, on avait envie. L'année dernière, on était avec les Qualités Street, qui avaient fêté leurs 10 ans de compagnie, donc nos amis rennais, et qui sont installés maintenant à Rennes, mais qui sont de Brest à l'origine.
Ouais, enfin, ils sont bretons, quoi.
Ouais.
Mais Rennes, c'est pas la Bretagne. Hein.
Et puis Brest, je suis pas sûr.
Le paillasson, c'est là où on s'essuie les pieds en rentrant.
Ah là là, ça y est, tu vas, il démarre, tu vas, ça y est.
Ça commence.
Ah, mais le breton, c'est quelque chose. Hein, ouais. J'ai beaucoup aimé quand Hannibal s'en est pris aux gens donc, qui sont nés quelque part. Et je te dis pas comment il a laté les bretons. Bah, ils sont comme ça, les bretons. Je t'avais dit qu'il fallait pas jouer en Bretagne, ils sont tous radins en Bretagne et tout. Ça, c'était vraiment très très bien. Il y avait le public qui réagissait en bon breton.
Ouais, pour il, ça, il est payé, hein. Il est pas à la manche. Hein.
Ouais. C'est comme Bébé et Lolo, pareil, dans leur spectacle. Hier, ouais. Hein, qui ont dit qu'ils allaient rabaisser un peu le niveau de la prestation musicale qu'ils allaient faire parce qu'ils étaient en Bretagne.
Ah, c'est, voilà. ça j'adore.
C'est toujours, bien sûr, des petits mots piquants comme ça devant un public.
Oui, parce que ça marche toujours. Parce que ça marche. Ouais, regarde, ouais, Cathy, comment elle réagit tout de suite. Toi, tu dis que t'es breton.
Ah, ouais, moi, j'avais une question quand même pour les tangos sumo parce que dans le premier round, ils sont 3. Dans le deuxième round, ils sont 4. Hein. Dans Expédition Paddock, ils sont 5. Hein. Mais cette année, au printemps, ils étaient 1001. C'est quoi ce projet? Parce que c'était beaucoup de danseurs d'un coup, là.
Là, c'est un gros projet qui a été monté principalement par Olivier Germser, le chorégraphe, et sa fille, Oriane Germser. Et c'était un travail dans les quartiers autour du Boléro de Ravel.
Vous avez fini à 1001 danseurs.
Voilà, 1001 danseurs et plus 6 infinités. Et voilà.
Alors, c'est intéressant, mais bon, comment est-ce que vous, je ne sais pas, dans votre carrière, comment vous êtes retrouvé à faire de la danse, par exemple, tout simplement? Ici, on est à Morlaix, on vit à Morlaix, voilà, tout à coup, on se dit, tiens, je vais faire une compagnie de rue, allez, je vais faire expression corporelle.
Alors, moi, j'ai commencé
vous
à
avez
danser.
Fait pif-pouf, comment vous avez
moi,
fait
moi, j'ai commencé à danser, j'avais 16 ans, je commençais à fumer des pétards, limite à dealer du shit, je commençais à mal tourner.
C'était ça ou la prison?
J'ai rencontré une femme formidable, avec qui je me suis très bien entendu, c'était l'été, et puis quand septembre est arrivé, elle a repris son activité de donner des cours de danse. J'avais jamais pensé à danser, dans une fête, j'avais le cul sur la chaise, j'étais pas danseur, et paf, tout d'un coup j'ai découvert la danse, et ça a été formidable, j'ai passé 3 ans à danser, ça a été, on va dire, quand même salvateur.
C'est vrai?
Ouais.
D'accord.
Sinon je tournais mal. La danse m'a sauvé.
Non mais c'est dingue, la prison ou la danse.
Au moins moi je suis sauvé quoi, parce qu'il y en a plein qui ne le sont pas quoi.
Eh oui.
Notamment ici à Morlaix là, tu croises
mais,
beaucoup.
Mais
de...
l'es-tu complètement? L'es-tu totalement sauvé?
Non. Je glisse.
Il reste du mystère. Encore capable de déraper légèrement.
Du mystère.
Mais je voulais... Momo pareil. Excuse-moi Aurélien, Momo pareil.
Moi j'ai commencé.
On n'a pas compris. T'avais pas de micro. Qu'est-ce qu'il a dit?
Momo c'était un opiomane prononcé avant.
Ah d'accord.
Non, moi
alcoolique,
j'ai
anonyme aussi.
Quand on vous dit que c'est le bout de la terre, quand même Morlaix, que c'est sinistré, que les gens vont mal, c'est.
Non mais on t'a pas raconté la faille Morlaix, le granit radioactif, les cellules qui partent en live, les cancers et tout, c'est.
Le joint français.
Il y a une entreprise qui s'appelle le joint français.
Oui.
Et en fait. Mais moi, j'habite. Ça fait 3 ans que je suis à Rennes, à Morlaix. Je veux dire, avant, j'étais à Rennes. C'est là où on a rencontré Olivier. Et c'est au bout de 3 ans que, enfin, au bout de 7 ans que je suis venu ici.
T'as dit, j'irai jamais là-bas. J'irai jamais. Et puis finalement, il est venu quand même.
Voilà. Mais c'est super. Je regrette pas. J'ai commencé en fait la danse. Je pensais pas du tout faire de danse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la capoeira. Et
ce qui est un peu de la danse, quand même.
Oui. Mais pas que de la danse.
Expression corporelle.
Voilà. Et combat, ça m'a amené aussi vers la danse, et la capoeira étant danse, combat aussi, et aussi des aspects théâtrales.
Et notre dernier, monsieur Nicolas, lui, comment il est arrivé à la danse? Parle pas beaucoup.
Je danse depuis que je suis tout petit en fait.
Ah bon?
Et un jour j'ai rencontré une nana qui était danseuse, qui m'a appris qu'on pouvait être danseur, en fait, qu'on pouvait vivre de ça.
Et qui avait le droit.
Qui vivait de ça, quoi. Je lui ai dit.
On se faisait pas moquer par les routiers sur les bords de
route. C'est ta vie, tu danses, tu fais ça et ça marche. Et elle m'a fait réaliser que c'était possible, en fait. Du coup, je me suis dit que je ferais ça.
C'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Je sais pas si vous avez des enfants un jour ou si vous en avez même déjà. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ton papa? Mon papa, il est danseur. C'est génial. Enfin, répondre ça.
Bah, c'est génial, oui et non.
Comment le vivent vos enfants, en fait?
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai un gamin de 12 ans au collège de Montfort-sur-Meux.
Montfort-sur-Meux, c'est vrai. C'est quand même énorme.
J'habite à Montfort-sur-Meux. Et je sais pas, je me suis posé la question récemment.
Ah ouais,
je crois que je ne lui ai pas posé encore.
Il faut bien qu'il remplisse la petite fiche, là.
Oui, mais la petite fiche, elle est au prof. La petite fiche, elle est au prof, pas au collègue.
Ouais, mais les copains, quand même. Hein, quand tu remplis la fiche, il y a échange de fiches. Regardez ce que fait le père du voisin.
Ouais, alors mon papa, il est danseur. Ça peut faire tâche, surtout à cet âge-là. Hein, parce qu'au collège, c'est tout le monde dans le même moule. Mais en même temps, mon papa, il joue au Brésil, il joue en Russie. Tu vois, il fait le tour du monde. C'est pas mal, quoi.
Mon papa, il est artiste.
Voilà.
Ah bon, moi, le mien, il est juste vétérinaire. Oh.
Moi, je voulais juste revenir sur Expédition Paddock, puisque c'est le spectacle qu'on pourra voir aujourd'hui et demain. Reparler un peu de la forme de ce spectacle. Donc, 5 personnages, 5 lits, ces personnages habillés d'habits rayés. Alors, est-ce que c'est un milieu
toi
carcéral,
toi la matelas,
est-ce que c'est un milieu hospitalier? Il y a un enfermement, en même temps il y a une envie de liberté, de s'élever, puisque les lits deviennent des moyens de se déplacer, des moyens de s'élever. Il y a vraiment beaucoup de sens donné par la danse sur ce spectacle-là. Comment on le vit de l'intérieur, et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre sur ce spectacle?
Paddock, en fait, moi, je le situe entre la prison militaire, en effet. Il y a vraiment... prison militaire. Et l'HP.
Encore plus joyeux.
À cheval entre ces deux-là. C'est des prisonniers...
C'est vol au-dessus du coucou.
Ouais, c'est ça. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou ou moi j'aime bien le parallèle aussi avec La vie est belle. Tu vois ce film de La vie est belle parce que voilà, c'est un thème super dur. C'est l'incarcération, la vie les uns sur les autres, le dortoir, la folie. C'est vraiment, ça a quand même vraiment à voir avec l'HP. Je dis entre l'HP et la prison militaire. Et en même temps, on tord le cou à ça dans le sens où on aurait pu faire une sauce à la danse contemporaine, dure, dramatique, vouloir faire pleurer, émouvoir le public. Mais on, c'est un pied de nez à tout ça. C'est dans ce sens que je parle de La vie est belle où finalement, on déconne vachement avec. Et où tu as cette double lecture. C'est-à-dire que, vraiment, tu le vois très bien, les enfants, plus on se canarde de coups de polochon, plus les enfants ils se marrent. Et plus les adultes grincent des dents et se disent ouh là là.
C'est vrai qu'il y a une double lecture aussi. Oui. C'est vrai que ce qu'il faut redire, ce qui m'impressionne toujours quand et j'en ai vu un certain nombre hein, des spectacles de tango sumo dans plusieurs lieux en France. Hein, j'ai pas eu l'occasion de vous accompagner en Russie ou au Brésil.
Hein. La prochaine fois, on t'emmène.
Ah. Vous me mettez dans les bagages. Mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point sur vraiment une base qui est quand même très exigeante. Au niveau danse, on parle de danse contemporaine. Tout de suite, dès qu'on dit danse contemporaine, ça fait un peu peur aux gens. On se dit, oh, ça va être chiant, ça va être machin. Tu tends le bras une fois.
Oui, mais ça se passe dans la rue, c'est différent.
Ça se passe dans la rue, mais je crois qu'il y a aussi, dans tout le travail que fait Olivier Germsay, on a une pensée aussi pour Olivier. Je crois d'ailleurs qu'il était en vacances, je crois qu'il a pris la route là, et je crois qu'il a envie de venir rejoindre tout le monde sur Morlaix, il va arriver.
Il arrive.
Et je crois qu'il y a toujours cette comment on arrive à parler à tout le monde, quoi. Et c'est impressionnant de voir comment les petits, les grands, les plus anciens se retrouvent dans ces propositions-là.
Ouais, mais alors justement, là, moi, je voudrais dire un truc. Moi, je viens de la danse contemporaine. J'ai bossé 15 ans en salle, en danse contemporaine, et où t'as, je dirais, même pas 1% d'une ville, de la population d'une ville, capable de payer une place pour aller au théâtre, voir de la danse contemporaine. Même pas 1%, je sais pas, 0,5%, ou je sais pas. Et où moi, au bout de 15 ans de cette danse-là, je suis revenu à la rue. J'ai commencé mes premiers trucs, mes premières prestas ado, c'était en rue, à la Manche. Et finalement, je suis revenu bosser avec Olivier en rue. Et
Parce que là, au moins, il y a un public différent.
Ah ben oui.
Varié.
Là, tu as un public qui n'irait jamais. Tu peux vraiment tomber. On a joué même des fois dans des bleds, dans les populations rurales, où ces gens-là, tu sais très bien, jamais ils iront payer leur place pour aller voir de la danse en Bren. Mais du coup, la danse elle-même, elle se transforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tango sumo, je dirais pas c'est de la danse contemporaine. Je dirais c'est de la danse de rue. Voilà. C'est-à-dire avec un propos qui se veut quand même plus simple, plus compréhensif. Si t'es complètement barré, complètement conceptuel, complètement abstrait, comme peut l'être souvent la danse contemporaine en rue, la rue c'est dur. La rue, le public
qui te fait jeter.
Le public se casse au bout de 5 minutes. Si tu le branches pas, si tu l'intéresses pas avec un propos un peu tangible, quelque chose de ou une énergie au moins, voilà.
Et c'est normal.
Bien sûr. Le public se casse, c'est gratuit. Il sait bien qu'au coin de la rue d'à côté, il va trouver un autre spectacle. Donc là, voilà, tango sumo, c'est ce côté d'être dans le corps, d'être dans la danse, mélanger paddock. Paddock, ça touche au théâtre quand même, parce qu'on tchatche au corps, la musique, on joue des barreaux, on joue des clés de 17 et des clés de 13 sur les barreaux.
Une autre création, Moyen Plume, on a d'ailleurs les deux protagonistes du spectacle, donc avec Momo et Nico aussi, et beaucoup aussi va aussi vraiment dans le rôle de la relation entre deux personnes, un registre assez comique aussi, un registre l'univers de manga, etc. Il y a vraiment vraiment plein de choses à chaque fois dans les spectacles. Moi, ce que je disais par rapport à la danse contemporaine, c'est vrai, c'est dès qu'on dit ce terme-là, tout de suite on a l'impression que c'est pas pour nous, quoi. Mais je trouve que dans ce terme de danse contemporaine, il y a l'exigence, en tout cas, de la base de danse qu'il y a dans le travail de tango sumo. Je crois que s'il n'y avait pas cette qualité de danse, ce ne serait pas du tout les mêmes propositions aussi.
Okay. Je suis un peu désolé, mais il va falloir qu'on ait course.
Ouais,
parce qu'on a déjà une demi-heure dans le nez, apparemment. Donc,
on va pouvoir les manger.
Les compagnies bretonnes ont des choses à raconter au micro des radios. Je ne sais pas exactement qui c'est qu'on va accueillir juste après, puisqu'on est tellement à la rue.
C'était Bébert et Lolo.
Normalement,
c'est Laurent Serre.
Bébert et Lolo. Je fais le signe, oui. Juste après un petit morceau. Donc, on enchaîne tout de suite, on fait une petite pause musicale.
On rappelle quand même que Tango Sumo, on les retrouvera avec Expédition Paddock ce soir à 20h03. Place à l'IND et demain soir à 19h33.
Ouais.
D'accord. Alors j'ai un petit souci.
T'as plus de son ?
super bizarre de gros buzz. Alors donc on va peut-être directement enchaîner. Ah, je vais voir si ça marche. Oh, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que t'as fait encore?
Rien du tout.
Il faut chanter.
Не искучай меня без нужды. Возврата нежности своей.
Foxy Lady.
Eh ben, voilà, ben on va enchaîner directement. Du coup, merci beaucoup Tango Sumo pour
merci.
Sauvetage de radiophonique. Vraiment là, franchement, là,
vous aurez bravo Tango Sumo, vous étiez
à
super.
Toute ma reconnaissance éternelle.
Ah et ouais, on poursuit cette
assuré, comme des bêtes.
On poursuit cette émission avec un spectacle au poil.
Au poil. Hein. Qu'est-ce que tu entends par là exactement?
Moi, j'ai vu un spectacle au poil hier soir. Il s'agit de Laurent Serre avec un spectacle intitulé Complètement à la rue et c'est un duo.
Eh oui, je ne saurais dire mieux.
À plusieurs pattes.
Alors donc Laurent est avec nous au studio et voilà, il manque Bébert.
Voilà, Bébert, il est à la sieste là encore. Comme toutes les grandes stars, il est à l'hôtel là, en train de se reposer avant son concert de ce soir. Et moi qui ne suis que l'accompagnateur, bah voilà.
Tu fais aussi la promo du coup.
Voilà, de la promo, de la régie, de l'installation du matériel et de l'accueil de l'artiste.
Alors effectivement, voilà. dans ton rôle dans ce spectacle, c'est comme tu l'as décrit, tu présentes, tu mets en place le décorum de l'arrivée de ce bébert.
Von Karajan.
Von Caravan. C'est du cirque. Là. C'est, voilà.
Donc, qui est cet artiste alors, Bébert Von Caravan?
Eh ben, c'est un petit chien. La marque, c'est un Sheepwork. il est magnifique. Il est joueur. Il est très sympa, très intelligent. Et il chante magnifiquement. Il joue du piano. Voilà.
Comment donc, vous êtes rencontrés tous les deux?
On s'est rencontrés chez l'éleveur, si tu veux. ça m'a coûté 650 euros. à peu près. Ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec un animal, avec un chien.
Parce que tu évoluais en trio avec les cousins avant.
Voilà, hein. J'ai travaillé pendant 20 ans en trio avec les cousins. Et puis, je me suis mis un petit peu en congé de la compagnie, on va dire, en tout cas du trio pour quelques temps, pour des raisons tout à fait familiales, voilà, on va dire. Et voilà, donc, et puis, il faut bien bouffer, hein. Voilà, hein, c'est la vie, hein, et son cortège de drames, faut payer les quittances et tout ça. Alors, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai quitté le trio qu'il faut que j'arrête de bosser, donc j'ai monté un spectacle tout seul. Et comme je me sentais un peu trop seul, j'ai dit, je vais adopter un chien, voilà. Donc, si tu veux, Julot a gardé René, et moi, j'ai pris un chien. voilà.
Alors c'est qui Bébert, c'est qui Lolo? J'ai pas trop.
Alors Bébert c'est le chien, c'est voilà. Le jeune chien d'accord. Et Lolo c'est le vieux cabot. Voilà.
Ah d'accord. Vous êtes de 93 tous les deux. Du 93 de Pantin.
Du 93. Non, c'est la compagnie était. Maintenant elle est à Paris d'ailleurs. Le bureau est dans le 10e. Et moi je suis Villeurbanne.
C'est où déjà,
je suis Villeurbanne. C'est à côté de Lyon. C'est une ville magnifique, voilà. Et donc j'ai monté. C'est un spectacle made in Villeurbanne.
Ah, attends, c'est en rencontrant le chien que tu as eu envie de faire un spectacle avec lui, ou tu as eu une idée de spectacle avec
un
chien?
Ah non, j'avais très envie de monter un spectacle avec un animal depuis longtemps.
Ah ouais.
Mais avec les cousins, on tournait beaucoup à l'étranger, avec dans des pays des fois un peu difficiles et tout ça, en Asie, en Afrique. Et c'est des endroits où c'est très compliqué d'emmener un chien, voire quasiment impossible, quoi. Même déontologiquement, ça serait bizarre, même d'emmener un animal dans certains pays comme ça, je trouvais ça bizarre, quoi. Et donc, quand j'ai décidé donc de me mettre un peu en vacances de la compagnie du trio, on va dire, voilà, j'ai pris un chien et j'ai monté le spectacle avec un animal.
Parce que ça faisait depuis longtemps, tu dis?
Ah ouais, ça faisait. Ben, au tout début des cousins, j'avais un petit chien, moi, qui s'appelait Dracula. C'était le petit chien des Carpates, à quatre pattes. voilà, c'était un chien que j'avais adopté. Alors je faisais trois bricoles avec. On faisait ça ensemble.
Qu'est-ce que tu faisais comme bricole, par exemple?
Oh, des petits trucs de cirque. Il me marchait un peu entre les jambes. Enfin, des trucs. C'était tout simple. Ça durait 3 minutes, tu vois. Mmh. C'était pas vraiment un truc de haut vol, tu vois. Là, j'ai bossé quand même. Hein.
Ouais, mais Bébert est un peu cabot, quoi.
Hein. Ah, bah, on est tous un peu cabot, ouais, les deux. Ouais. On est un peu cabotins, ouais. Ouais.
Faut avoir envie de bosser avec un animal, c'est chiant.
Bah, en même temps, tu sais, quand t'as bossé avec deux cons, pendant 20 ans, travailler avec un chien, après, ça va tout seul, tu sais. Ouais, mais deux clowns, tu sais, quand tu t'es trimballé deux clowns, après un chien, c'est du gâteau. Hein.
C'est vrai que quand on voit le spectacle, il y a un mot qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le domptage. On s'imagine comment
ouais,
ça se fait.
Alors, domptage, ça, c'est plutôt le cirque.
Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, c'est un mot qui est très limité pour décrire ce spectacle-là, parce que. C'est même plus du domptage, c'est que c'est vraiment un duo,
mais c'est pas du domptage du tout. Ouais. Déjà, domptage, c'est plutôt pour les fauves, tu vois. Bon, ouais. Bon, c'est vrai qu'il a l'air d'un loup, mais si tu veux, en.
Il a l'air d'un loup en petit.
Ouais, en plus une maquette de loup.
Entre vous deux, un jeu vraiment entre vous deux, parce que Bébert, il a tendance aussi à faire l'inverse de ce que tu lui demandes, justement.
Oui, en permanence d'ailleurs.
En permanence, oui.
Non, mais comment dire. Bon, il y a plus les techniques d'abord on dit plus domptage, on dit même plus dressage maintenant, on dit éducation. Voilà, on dit éducation. Tu sais, c'est comme avec les gosses, ça mais bon, de temps en temps, il faut bien mettre une torgnole quand même, hein, t'es obligé. Non, mais de toute façon, je crois que j'avais pas vraiment le choix, parce que dans la rue. Il y a trop de conditions
aléatoires,
défavorables, on va dire, à faire travailler un animal. Tu vois, le public est super prêt, les gosses, ils n'arrêtent pas de l'appeler pendant tout le spectacle. Hein.
Ça va être pénible.
Ils mangent, il y a de la bouffe, tu vois. Donc tu peux même pas utiliser vraiment les récompenses.
Il peut y avoir d'autres chiens, les cloches de l'église,
il y a tout ça. Donc si tu travailles, on va dire, avec de la contrainte. Ton animal, tu vas arriver à le dompter ou à le dresser comme tu veux. En répétition, ça va aller. Mais dès que tu vas être en spectacle, le chien, ça va être terminé. Il va pas obéir. Donc moi, je me suis dit, il faut plus essayer de trouver quelque chose sur le jeu, sur le plaisir, et qu'il ait envie de le faire. Sinon, ça ira jamais, quoi. Je pourrais pas travailler. Et donc moi, j'ai plus travaillé là-dessus. Alors par contre, c'est des techniques qui c'est pas moi qui ai inventé. Hein, c'est des techniques qui existent. Depuis quelques années, on essaye de faire travailler les animaux plus dans ce sens-là. Mais par contre, c'est beaucoup plus long, l'acquisition de ce qu'on veut lui apprendre. C'est beaucoup plus long, mais par contre, c'est vachement plus efficace.
Alors, la technique, c'est quoi ? C'est pas la petite boulette, la petite.
Si, il y a des récompenses, mais si je commence à attaquer ça, j'en ai pour deux heures. Hein. Mais en gros, le trois quarts de ce que fait le chien, il a été acteur du truc, tu vois ?
C'est lui qui l'a inventé aussi.
J'ai beaucoup utilisé, s'il y a des gens qui sont à l'écoute là et qui connaissent, j'ai beaucoup utilisé le clicker, moi. Et le travail au clicker, c'est un travail un peu particulier, qui est un peu nouveau en France, qui est déjà bien acquis dans les pays anglo-saxons. Et ben, en gros, tu donnes pas d'ordre et tu n'utilises pas la récompense comme indication, mais seulement comme motivation. Voilà. C'est un peu vague ce que je dis. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Par exemple, à un moment, mon chien, je lui demande de s'asseoir sur une chaise, et il va se coucher dessous. Et ça, c'est un truc, on va dire avec une méthode traditionnelle, c'est très simple. Tu prends un morceau de beefsteak ou de n'importe quoi. Si tu n'as pas les moyens, tu mets du saucisson à l'ail. Mais tu mets une récompense sous la chaise, t'envoies le chien dessous et tu lui donnes un ordre. Tu utilises toujours le même mot pour déclencher le truc. Voilà. Ton chien, s'il n'est pas trop bête, au bout de 4-5 jours, il a compris que quand il va aller sous la chaise, il y a une récompense qui l'attend en dessous. Puis après, tu enlèves la récompense et tu la lui donnes une fois qu'il est sous la chaise. Et puis après, tu supprimes la récompense. Et ça, pour lui apprendre ça, ça t'a pris une dizaine de jours, tu vois. C'est pas très compliqué. Mais par contre, le jour où il n'a pas envie d'y aller, eh ben, c'est raté. Et puis alors, avec le clicker, eh ben, c'est un autre travail. Ça m'a pris, pour faire le même exercice, ça m'a pris, on va dire, 2 mois.
Mais par contre, patience infinie. Enfin, c'est un truc de malade, ton.
Non, c'est pas un truc de malade parce que c'est pas 2 mois sans interruption. C'est 3 fois 10 minutes pendant 2 mois.
D'accord.
Donc c'est même ça, c'est pas un autre travail, quoi. Tu vois, moi j'étais jongleur avant. Donc si tu veux, quand t'as passé des heures et des heures à t'entraîner tous les jours pendant des années et des années, travailler après avec un chien, c'est pareil. Ouais. C'est un peu comme tout à l'heure, ce que je disais sur mes camarades. C'est vraiment du gâteau, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est long. Mais bon, un an et demi, à côté de je ne sais combien d'années d'apprentissage, c'est pas si long que ça, quoi. Voilà. Puis je pense qu'un bon dresseur aurait été un peu plus vite. Moi, j'ai un peu découvert tout ça dans des livres et puis en parlant avec des gens. Je pense que si prochainement je prends un autre animal, enfin un autre chien, je pense que je serai plus efficace et plus rapide. Mais en gros, donc, je reviens à ce que je disais, pour lui apprendre à aller sous cette chaise, ça m'a pris 2 mois. Mais c'est lui qui a vraiment trouvé toutes les étapes du travail. Et c'est un truc qui fait maintenant, c'est sur un geste en fait qu'il obéit à ça. Dès que je fais ce geste, il va se planquer sous une chaise. Mais même là, il serait là. Je pourrais vous le montrer, même si c'est pas la chaise dont il a l'habitude, il va chercher une chaise et il va aller se mettre dessous. C'est Pavlov, quoi. Il y a un truc, c'est devenu complètement un réflexe. Et en même temps, on le voit, il le fait avec plaisir parce qu'il frétille de la queue en permanence. Et voilà. Alors que souvent, au cirque, on voit des animaux qui travaillent. Et si on observe bien, c'est plus de la contrainte, quoi. On voit ça.
C'est vrai qu'on est rentré beaucoup dans la technique, etc. Ouais. Mais quand on voit le spectacle, il faut dire aussi aux éditeurs, quand on voit le spectacle, on voit plus une complicité et une relation de jeu entre un homme et un chien. Sans avoir un dompteur ou un dresseur et son animal, c'est vraiment deux artistes qui s'amusent ensemble, qui font plaisir au public pendant 35 minutes.
Et qui cabotine.
Cabotine, effectivement.
Tout à fait. Bon, mais ça me fait super plaisir, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans ce spectacle. C'est vrai que le côté technique, il est important, mais après, une fois qu'on est sur scène, on s'en fout de savoir comment... comment on est arrivé à ça. Mais c'est sûr qu'il y a une complicité, quoi. Hier, le chien, je ne sais pas si vous avez vu, il n'arrêtait pas de bailler, c'était marrant. Ouais. Mais voilà, c'est jamais pareil. Hein.
Tu peux improviser du coup avec certaines de ces mimiques.
Bah de toute façon, je suis obligé parce que je suis obligé de m'adapter. Quand il a très très chaud, par exemple, il est hyper lent, il est même lascif, quoi, tu vois. Il se traîne et tout ça, donc il faut l'utiliser ça. Il y a des fois, il est super énervé, il n'arrête pas d'aboyer. Voilà, il faut le
même pendant le spectacle.
Pendant le spectacle. Des fois, il y a des gens du public qui sont avec des chiens, par exemple. Ça l'excite très fort et il est hyper. Il est hyper speed dans ces cas-là, etc. Et t'es constamment en train de t'adapter à ton partenaire. Parce que lui, s'adapte pas à toi, quoi. Il est dans son humeur. Mais en même temps, c'est ça qui est bien. Il est toujours juste, quoi. C'est l'acteur parfait. Parce que dès qu'il rentre sur scène, il est totalement sincère, quoi. Toi, en tant que comédien, tu mets des années à acquérir ça, la sincérité. C'est ce qu'il y a de plus important, moi, je trouve, pour un comédien, la sincérité.
Il est nature, quoi.
Mais les animaux, dès que tu les mets sur scène, tout le monde les regarde. Et les enfants,
ils sont captivés.
Un chien, il est toujours juste. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il joue, parce qu'il joue pas, en fait. Il est totalement sincère. Et c'est, pour ça, c'est un super partenaire, l'animal, quoi. Mais c'est un partenaire qui demande
qui est un peu con, un peu lent.
Qui demande de la souplesse. Non, il est pas con. Ah non, il est. Mais voilà,
j'essaie de provoquer un petit peu.
Il a pas les mêmes codes que toi, quoi. C'est un animal.
Et d'ailleurs, il est là, le petit.
Là, il est en train de faire la sieste, là, tranquillement. Voilà, on a fait une bonne balade ce matin, et puis là, il est en train de dormir dans la voiture.
D'accord.
Mais c'est vrai que j'aurais pu l'amener.
Bah oui, et c'est vrai que ça aurait été très radiophonique. A priori.
Ah non, mais il parle.
Il chante.
Hein,
il parle. Tu le fais parler.
Ouais. Ah bah bien sûr, ouais.
Ça c'est génial, un chien qui chante.
Alors au début de spectacle, tu précises au public que le spectacle n'est pas interactif. Moi j'ai beaucoup aimé ce moment-là, la réaction des enfants en bas.
De l'ancienne école, non?
Je travaille à l'ancienne. Oui, on n'est pas tout jeune, hein, on a des heures de vol les cousins, quoi, tu vois. Et nous on n'a pas fait l'école de cirque et tout ça. Voilà, on travaille à l'ancienne, nous.
Ah,
on respecte le public, mais il faut que le public nous respecte. Voilà.
Non, il n'y a jamais eu d'histoire de chien qui se battait, je sais pas quoi, des trucs comme ça, parce que un mâle, c'est un chien mâle, ton chien. Donc ouais, le chien mâle a tendance à aller chicaner les autres mâles.
C'est très cool, moi. Il est cool. Il est pacifique à fond.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Il n'y a jamais eu d'autres chiens qui sont venus, qui ont voulu intervenir.
C'est arrivé une fois, une dame qui avait une petite chienne qui n'arrêtait pas, qui était au premier rang et qui n'arrêtait pas d'aboyer. Puis elle voulait pas partir, et voilà, ça a été un peu
le bordel.
Un peu conflictuel avec elle, et puis c'est le public qui l'a viré, en fait.
C'est vrai?
Pas moi. Ah, les gens en avaient marre et tout ça. Mais sinon, en général, ça se passe bien. Non, j'ai plus de problèmes avec les enfants qu'avec les chiens. Il faut dire la vérité.
Et donc, tu engueules les enfants ou tu les fais mordre par ton chien?
Non, je les éduque.
Comment tu fais avec les enfants? Parce qu'il y a plein de compagnies qui galèrent avec les enfants, qui disent aux parents, même en début de festival.
Autant travailler dans la rue, c'est un vrai bonheur, mais les gosses, quoi, voilà, c'est terrible.
C'est surtout les parents des gosses.
Voilà, qu'est-ce que tu veux? Voilà, ils te lâchent les gamins devant et puis ils partent au bistrot.
Exactement, en se disant il y a l'animateur qui va s'en occuper.
Voilà. Non, je déconne, franchement, le public de Morlaix.
Alors?
C'est un public exceptionnel. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah ouais. Non, mais je dis pas ça pour faire de la lèche. J'allais rajouter un mot grossier derrière. mais je me surveille. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, hier, je suis parti... bon, si vous voulez, c'est le trac, ça, qui fait ça. Avant de jouer, il faut que j'aille faire 3 petites gouttes de pipi. Ça. Voilà, je m'excuse, c'est un petit secret. Ça fait partie des coulisses. Donc, je suis parti à la MJC... à la MJC qui est à 2 pas du lieu sur lequel je présente le spectacle avec Bémer. Et en revenant, il y avait vraiment une foule énorme. Moi, j'étais impressionné. Ça n'a pas calmé du tout mon trac. Et surtout, il y avait un brouhaha, quoi. C'était bruyant, quoi. Il y avait des gamins partout. Il y avait plein de gens. Il y en a qui mangeaient. Il y en a qui, enfin, voilà. Et je me suis dit, oh là 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 là, ça va être dur, ça va être, voilà. Et puis bon, bah, j'ai regagné mon lieu de spectacle. Je suis monté sur la scène et j'ai mis le pied sur la scène et il y a eu un silence, mais hyper respectueux, plein d'écoute comment dire, je sentais de la bienveillance, voilà. De la bienveillance de la part du public, du genre, allez, vas-y, on est avec toi, quoi. Ah, et ça m'a. Et je crois qu'ils ont senti ça, les gens, parce que c'était hyper chaleureux, quoi. Vraiment. Je dis pas ça pour faire le lèche-cul, voilà, ça y est, je l'ai dit. Mais vraiment, j'ai trouvé le public super bien.
C'est vrai que c'est un beau lieu, un bel écrin pour le spectacle, ce Parvis Saint-Mathieu.
En plus, le lieu est assez beau.
C'était amusant aussi de voir les habitants de la rue aussi, qui étaient tous aux fenêtres, aux premières loges. Voilà, il y avait même un balcon sur le spectacle.
Super chaleureux. Non, ils ont. Non, vraiment un triomphe. Enfin, je connais pas. Mais bon, quand ils jettent des pierres, les Bretons, c'est qu'ils sont contents, hein.
Ah ouais, non, mais aux autres spectacles. Il y a 14 spectacles, c'était comme ça, quoi.
Ouais. Non, mais je crois là, vraiment, vu le nombre de pierres qu'ils m'ont jeté à la fin, je pense que vraiment ils ont beaucoup aimé. Ouais.
Les pavés d'ailleurs du parvis.
Merci en tout cas.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Voilà.
Pour ceux qui auraient raté l'épisode de hier soir, eh bien, on peut le retrouver donc ce soir et demain soir. Ce soir, c'est à 21h03 ou 12 comme hier
12,
soir.
12. Sur le parvis de l'église Saint-Mathieu.
Et puis vendredi, 18h32, 20h52.
Eh bien, si tu le dis, ça doit être ça.
On va accueillir maintenant rapidement pour finir cette émission. Il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes environ. Merci Lolo.
Ouais, je me casse. Ouais, ça veut dire barre-toi en breton.
Exactement. ça veut dire bonne chance surtout. Claire Ducreux.
Vous allez voir, elle est super.
Claire Ducreux est avec nous. On ne peut pas me parler quand j'ai un casque sur l'oreille. Si on n'a pas de micro, cher stagiaire, tout est normal.
Clémence, tiens.
Claire est ici. Tu prends un stylo, un crayon, puis tu me fais un panneau. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors, désolé de t'accueillir un tout petit peu en retard, t'as dû attendre un tout petit peu. Rapproche-toi un tout petit peu du micro, tu fais partie donc de la programmation du Festival des Arts de la Rue de Morlaix. Je vous rappelle qu'on est à Morlaix, on a installé un petit studio, on est en direct sur Canal B et Fréquence Mutine en même temps et on peut nous écouter sur le site internet
du Fourneau.
Alors, on accueille maintenant notre dernière invitée, Claire Ducreux. Désolé donc de t'avoir fait attendre. Alors toi, tu proposes un spectacle qui dure environ 45 minutes.
20
minutes, voilà.
Ça semble si long, ça casse en arrivant.
Le pire, c'est que je l'ai vu.
Mais c'est ça qui m'inquiète.
Enfin, j'ai vu une partie, en fait. J'étais obligé de quitter en cours de spectacle pour aller enquiller un autre derrière, celui notamment d'Hannibal et ses éléphants. Tu joues à côté donc d'Hannibal et ses éléphants. J'espère qu'ils ne font pas trop de bruit. En tout cas, ils sont très respectueux. Ils attendent que tu aies terminé pour lancer le top. Et c'est vrai que, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Moi, c'est un spectacle de danse de rue poétique.
Voilà, j'ai vu du clown et de l'expression corporelle, enfin de la danse contemporaine, de la danse de rue. Est-ce que je me trompe ?
Non, oui, c'est vraiment un langage fait de. Au départ, pour moi, c'est vraiment danser, mais j'imagine que pour les gens, ça ne doit pas être aussi évident parce que souvent, on me demande après : vous avez fait de la danse ? Oui. Mais et puis voilà, c'est vrai que ça mélange un peu de clown, un peu de théâtre visuel, mais tout ça, c'est un langage qui est celui qui me plaît, mais qui est une excuse pour en vrai ce qui s'établit avec les gens, qui est ce qui m'intéresse vraiment.
Et ce qui t'intéresse vraiment parfois, enfin à un moment en tout cas du spectacle, c'est d'aller chercher quelqu'un du public pour danser. C'est vrai qu'aller chercher quelqu'un dans le public, on voit plein de gens le faire dans la rue, mais c'est quand même assez rare que les gens qui proposent un spectacle à base d'expression corporelle aillent chercher quelqu'un du public. Et tu ne vas pas chercher n'importe qui. Comment tu choisis ?
Chez les enfants, ça dépend de l'âge, de la taille. C'est vraiment.
C'est une histoire d'âge et de taille.
Plus, oui. parce qu'effectivement, selon l'âge, ils vont avoir une certaine compréhension ou une certaine timidité qui n'est pas la même. Et c'est ce qui fait la grâce de ce moment-là.
C'est finalement la timidité de la personne que tu as été chercher dans le public.
Ou la timidité, ou au contraire, qu'ils soient des petits garçons qui sont bien contents d'être là. Mais ça change tellement à chaque fois, tu ne sais jamais. C'est ça qui est magnifique, ça qui me plaît beaucoup. C'est que tu es vraiment obligé d'être à l'écoute de la personne que tu as avec toi, que ce soit enfant ou adulte d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, c'est une histoire complètement différente.
Et tu vas chercher des adultes aussi alors ?
Bah, dans ce spectacle, un homme en tout cas.
Mmh. Ouais. Un homme à un moment donné. Tu choisis comment, grand, costaud, petit, maigre.
Là, c'est pareil.
Non, mais tu les repères pas avant.
Je les repère pas avant. J'ai vraiment 15 secondes pour les. J'essaie parfois quand je peux, un peu avant, de regarder et de voir que ce soit au moins des gens qui profitent. C'est-à-dire pour pas prendre quelqu'un qui est en train de se dire, je suis en train de voir quelque chose que j'aime pas et en plus on me prend.
Tu peux le voir en une seconde, ça.
Tu le vois au sourire, tu le vois au regard. Ouais. Ça, c'est très clair. Après, par contre, tu peux te tromper, tu peux. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de mauvais volontaire. Ouais. Moi, parfois, je suis j'ai l'état suffisamment ouvert pour bien suivre n'importe quel genre de personne. Et il y a des fois, j'y arrive pas. Et dans ce cas, bon, voilà. Surtout quand c'est quelqu'un qui veut être un peu drôle, qui t'écoute pas très bien, voilà. Ben, c'est toujours plus difficile.
Parce que là,
difficile.
Tu prends des risques. Quand même hier, ça a très très bien fonctionné, notamment avec le petit garçon. Tu allais le chercher, le petit garçon était tout timide, mais vraiment, mais parfait. Vous étiez un couple extrêmement émouvant. Tous les deux, il savait pas où se mettre. Tu lui demandais de souffler dans un appareil à faire des bulles. Je sais pas comment ça s'appelle, un bulleur, bullier. Tube de bulles de savon.
C'est pas très
joli. Il soufflait
hein.
dedans et tu lui demandais d'arrêter. Il te voyait pas. Enfin, c'était extraordinaire. Tout le monde était ému. J'ai presque pleuré. Non, je déconne.
Oui, c'est ce que je pensais aussi.
Mais non, c'était quand même un des moments forts, je pense, du spectacle d'hier. Et
non, mais c'est parce que t'as pas vu la suite.
Et j'ai pas vu la suite. Je suis allé voir Hannibal, c'est vrai. Mais bon, si, j'ai entendu les aboutissements, justement, comme j'étais à côté. D'ailleurs, il y avait Hannibal qui a réagi. Mais on vous avait dit de regarder le spectacle de Claire Ducreux jusqu'à la fin. On vous l'avait dit. Ils t'ont fait de la pub, les collègues. En tout cas, voilà, c'est vraiment un moment magique.
Le spectacle s'appelle Barco de Arena et du coup, il a été monté en Espagne.
Oui, je suis basée en Espagne. Mm-hmm. Barco de Arena, ça veut dire bateau de sable. C'est vraiment, il n'y a aucun sens profond à comprendre. C'est l'image du bateau de sable me plaisait parce que c'est évidemment un voyage de rêve qui va nulle part autrement que c'est un voyage d'émotion. Mais c'est sans prétention. C'est vraiment un spectacle tout simple que je fais pour et avec les gens, on va dire. Et puis des fois c'est magique, des fois c'est très mauvais.
Ah bon ?
Et voilà. Je profite beaucoup toujours.
Comment tu choisis la musique parce que c'est accompagné par une musique ?
Moi, je défends beaucoup dans la rue la douceur et le populaire. Parce que je trouve qu'on en a besoin. Et le populaire, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire de faire quelque chose de...
De grand public ?
De grand public, voilà. Mais merci, j'ai du mal à parler. Hein. Et du coup, les musiques, je m'en sers pour qu'elles m'aident. C'est-à-dire autant le support, autant l'élément scénographique que les musiques, j'essaie de faire en sorte qu'elles aident à être évocatrices ou d'images familières ou d'états. Où les gens puissent reconnaître plus facilement et donc entrer plus facilement dans ce langage abstrait qu'est la danse ou le langage corporel.
Sachant que c'est pas forcément évident puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration.
Il n'y a pas de narration, mais par contre, je crois qu'il y a un personnage et il y a une vraie narration émotive, on va dire. Narration peut-être pas, partage d'émotions, voilà.
Oui, parce que là, tu vois, tel que tu étais partie, j'allais te demander ce que c'était, une narration émotive.
Non, non.
T'as bien fait de te rattraper.
J'ai rien dit.
Alors, il y a une structure, oui, effectivement, qui est en forme de demi-cercle.
En inox.
En inox.
En fer, ouais. Oui, c'est un qui est donc a priori un. Pour moi, c'est plutôt un pont, donc à l'endroit. Et puis de l'autre côté, une balançoire qui se transforme en bateau, qui. Mais c'est pas pour créer des images précises, c'est vraiment pour laisser quelque chose d'un peu abstrait, un peu poétique, un peu. De l'autre côté, j'aime beaucoup l'image du balancement à la fin, mais c'est vraiment un support scénographique pour aider
à
rentrer dans le spectacle et dans le personnage. C'est la maison du personnage.
C'est vrai que quand on a Claire au micro comme ça, moi j'ai pas envie de rentrer dans du détail, c'est tellement du sensible, c'est tellement, tu dis un spectacle tout simple,
C'est amusant de dire un spectacle tout simple parce qu'il est tellement, tellement fort en émotion, tellement sensible que finalement il est totalement le contraire de simple. Enfin, j'imagine, mais effectivement, c'est comme ça qu'on le ressent. C'est comme si c'était naturel de se rencontrer par le corps, par le regard. Et finalement, c'est ça que, pour moi, ça me raconte. C'est de l'émotion. Moi, je voulais juste dire à Claire que moi, l'une de mes premières émotions de théâtre de rue ou de danse de rue, et c'était son duo avec Léandre, Fragile. Moi, la première fois que j'ai vu ça.
Et tu es tombé amoureux immédiatement de Claire.
Oui, je peux le dire.
Ce jour-là.
Et les plusieurs fois que j'ai vu Barco d'Arena, que je l'ai vu aussi, on parlait de Tango Sumo, Olivier Germset, où l'été dernier, il y avait un duo avec Olivier Germset. À chaque fois, ça a tombé par terre. Voilà, moi, juste dire, allez voir ce spectacle. Voilà. Et les retours qu'on a eu des gens hier, en plus, déjà, on commençait à en parler partout à Morlaix, déjà, de ce moment passé devant le spectacle de Claire. Donc, allez-y, c'est encore aujourd'hui. Et juste aujourd'hui, allez-y.
C'est seulement aujourd'hui, même heure qu'hier.
21h03, place des Otages.
Merci Claire,
merci
en tout cas.
Tout cas.
Et puis, bonne chance pour la suite des événements. Création 2008, ça depuis 2 ans déjà. Tu tournes avec ce spectacle, donc, qui s'appelle, on l'a dit, Barco de Arena. C'est comme ça qu'on dit.
Bien.
Allez, on va s'écouter un dernier petit sujet. Merci Claire. Un petit sujet réalisé par Clémence. C'est un petit sujet qu'on voulait passer quand même parce que c'était enregistré au bar du festival hier soir. Et là, je vois Aurélien qui commence à faire... Oula. C'est parti.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Luc Dedon. Joyeux anniversaire, Charlie Blandine. Joyeux anniversaire.
Oh, regarde-le, ton régisseur.
Je vais voir où il est. T'as entendu, Otoki ? T'as garé ta voiture n'importe comment, là, Lolo ? C'est quoi ce bordel ? Non, mais il y a un mec qui fait chez moi. Tout le festival, c'est lui, quoi. Alors, tu vas bouger ta voiture tout de suite, là.
Elle est super bien garée, jeune personne.
Alors, il y a tous les techniciens qui gueulent parce qu'ils peuvent pas bouger les camions.
Ouais, et Michel, hein. Michel, elle gueule aussi.
Ouais, c'est pour la
Michel, elle en peut plus, elle a dit, oh là là, on arrête d'inviter Bébert et Lolo, quoi. Bébert, oui, mais alors Lolo...
Je suis pas invité, je travaille.
Le boulet, quoi, le boulet.
Je travaille. Allons, Bébert,
je vous offrirai un coup à boire.
C'est pas vrai.
Ouais.
C'est ça,
volontiers. Il est d'une générosité.
Je vais aller boire, je vais aller boire un coup. Allez, on va me coucher.
Les sons des autres sur Canal P.
Hey, je vais boire un coup et je vais me coucher, nous disait Thierry Laurent sur ce petit reportage de fin de soirée qui nous prouve bien que nous sommes en Bretagne.
Et que tu es resté jusqu'au bout.
Nous aimons faire la fête. Ah, c'est pas moi qui ai réalisé le sujet, c'est notre petit stagiaire.
Oui, mais tu étais là aussi.
Clémence. Non, je sais pas. Je discutais. Merci d'avoir écouté cette émission en direct depuis Morlaix pour le Festival des Arts de la Rue. Merci Cathy. On te retrouve pas demain, tu seras pas là demain. Qu'est-ce qui
Alors,
se passe
Alors, en fait, demain, on te retrouve Paco, donc de 11h à 13h, toujours sur Radio du Phare, toujours en direct de Morlaix. Et comme on est des malades, parce qu'on est vraiment des malades, on nous retrouvera à partir de 17h et là de nouveau en duo en direct du Fort de Landaudec au Festival du Bout du Monde à Crozon. Et c'est parce que tu n'es pas là le matin que je vais préparer le terrain.
C'est exactement ça. Voilà, très très bien. Et puis on se donne rendez-vous donc à demain 11h. Alors, cette fois-ci, c'est pas midi 14h, c'est 11h 13h
pour le Phare et à 17h et jusque 19h pour le Bout du Monde.
Pour le Bout du Monde, c'est le petit défi pour demain. Je sais pas comment je vais faire vu qu'il y a encore une soirée à passer au Phare. Bref, en tout cas, restez sur les antennes de vos radios préférées. Venez faire un petit tour à Morlaix si vous n'êtes pas encore venu. Il y a encore plein de spectacles vraiment formidables.
Des tours des rues, vous croiserez toujours un spectacle qui fera plaisir.
Demain,
spécial Zepa.
Voilà, alors c'est quoi ZEPA? C'est quoi ZEPA?
C'est parce
une
que.
Zone alors, d'éducation prioritaire. C'est ça?
Zone européenne de projet artistique.
Zone européenne de projet artistique.
Puisque le phare, cette année, accueille 5 compagnies venues d'Angleterre, des compagnies anglaises, mais qu'ils ont déjà débuté ce projet avec le Mai des Arts, puisqu'on a vu des choses très intéressantes. Je pense notamment à Mario Queen, qui, moi, m'a fait beaucoup rire, mais il y a encore plein d'autres compagnies sous le coude, et on a vu notamment hier soir, nous en tout cas, un spectacle de danse contemporaine aussi avec Motion House.
Il y a beaucoup de danse contemporaine cette année au phare.
Avec un spectacle qui était assez surprenant aussi, mais je pense que moi vous ferez un bon panel de tout ça demain. Je compte sur vous, je serai en train de vous écouter dans la voiture.
Ouais, tu nous écouteras, il y aura aussi Gypsy Burek, vraiment une superbe formation dont on a entendu
qu'on
un extrait
tout à l'heure.
Et les Alamages Givrés, je vous en parlerai demain, un spectacle à pisser de rire qui se passe dans la rue avec plein de monde, et c'est vrai que les Alamages Givrés, ils étaient entourés de, mais je sais pas combien de personnes, on était facilement 300 ou 400 personnes dans une rue coincée, c'était assez délirant. Il y a beaucoup de monde à Morlaix pour voir les spectacles du festival, le programme au festival, malgré, j'ai envie de dire, quelques gouttes d'eau qui prouvent que
il pleut plus aujourd'hui. Enfin,
ça menace là.
Tu sais, en Bretagne, Paco, il ne pleut que sur les cons, tu peux voir comment ça t'est.
C'est bon, c'est Kersauzon qui a sorti ça en plus. Franchement, c'est pas la référence bretonne. Franchement,
bye bye.
On se retrouve demain 11h, 13h, donc au revoir. Et puis bonne route alors, Cathy.
Ciao, Paco, à demain. Yeah, yeah.